c'est le fait d'être un duo et de bosser ensemble qu'on a perpétuellement un échange, c'est un ping-pong l'un avec l'autre. Nos illustrations, bah, c'est de trouver le juste milieu.
Hello à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur et podcasteur à Paris. Vous pouvez me suivre sur Instagram @jeremykleiss et bon sang, bonsoir, mais qu'est-ce que je suis content de vous retrouver après un mois de pause. J'espère que vous allez tous bien et que ce troisième confinement s'est passé comme vous voulez. Moi de mon côté, je me suis exilé à la campagne, histoire de profiter de l'air pur et de la nature, mais ça, on s'en fout car je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, même si après 50 épisodes, on va pas se mentir, vous commencez quand même à me connaître. Mais je parle, et j'en oublie presque de vous parler de notre merveilleux sponsor, j'ai nommé Adobe. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fameux réseau social Behance, à l'heure où tout n'est que confinement et distanciation sociale, et on est d'accord, ça commence à bien faire. N'empêche que la période est propice au développement et à la consolidation de sa présence en ligne. Si vous suivez l'émission M'as-tu vu que j'anime avec Pauline du Laptop et également sponsorisée par Adobe, vous savez de quoi je veux parler. C'est le moment les amis, on est tous cloîtrés chez nous, alors autant rentabiliser son temps pour développer son portfolio, montrer son travail et pécho des clients. Et pour ça, Behance, c'est la plateforme idéale. Intuitif et facile d'utilisation, vos projets sont mis en valeur et partagés à une communauté mondiale de créatifs. Behance, c'est aussi une excellente plateforme pour diffuser votre travail en direct et récolter des feedbacks, notamment grâce à des outils du Creative Cloud comme Fresco ou encore Lightroom, qui sont entièrement connectés avec Behance. Tous les jours, vous pourrez aussi suivre les émissions ou visionner les replays sur des thématiques allant de l'illustration au graphisme, en passant par le motion, la photographie et pourquoi pas l'UX, lui. Vous pouvez aussi consulter les offres d'emploi, par les temps qui courent, c'est pas de refus. Et enfin, comme n'importe quel autre réseau social, Behance est aussi une source intarissable d'inspiration et un excellent moyen de découvrir des disciplines dont on discute peut-être moins sur ce podcast, comme par exemple la gravure, la 3D, la publicité, la mode, l'artisanat, le son, l'architecture et que sais-je encore. Bref, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à vous inscrire sur Behance, à créer votre page et à montrer votre travail. Pour ce faire, rendez-vous sur behance.net et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur adobe.com afin d'explorer les autres produits disponibles dans le Creative Cloud. Ceci étant dit, place à l'épisode du jour. Et pour le coup, aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter ma discussion avec Albéric et Léopoldine, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme Le Duo. Rencontré en 2017 lors des talks organisés par l'agence La Suite à Paris, j'ai tout de suite été marqué par la complicité dégagée par ce couple d'illustrateurs. Car oui, Le Duo, comme son nom l'indique, c'est un duo de choc professionnel excellent dans l'art du flat design, certes, mais Albéric et Léopoldine sont également mariés, parents de deux enfants et installés à la campagne. Et pour tout vous dire, cela faisait longtemps que j'avais envie de les interviewer pour ce podcast. Alors il y a quelques mois, j'ai pris le train et je me suis rendu dans l'Oise afin de discuter de tout ça avec eux. Dans cet épisode, Albéric et Léopoldine nous racontent comment ils se sont rencontrés, comment ils ont commencé à travailler ensemble, des ingrédients qui ont fait le succès du duo, des forces et faiblesses de chacun, ainsi que de leur équilibre entre vie professionnelle et vie de famille, mais aussi de l'importance qu'ils accordent au fait de se considérer comme des artisans et non comme des artistes, de leurs différences autour de la couleur, de l'éternelle question du style, de leur travail avec les grosses agences, de leur regard sur le fait que le flat design, c'est plus trop à la mode, de l'importance de se nourrir d'autre chose que de l'illustration, de la liberté de changer et de ne pas se cantonner à un seul secteur jusqu'à la fin de ses jours, et enfin, de l'importance d'écouter ce petit organe qui fait boum boum, j'ai nommé le cœur. Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir ma discussion avec le duo. Bonne écoute. J'aime bien, c'est toujours de rencontrer les gens avant pour simplement. Voilà, c'est ça exactement. Alors, la chose que je dis à chaque fois aux gens, c'est de bien garder le micro devant la bouche quand vous parlez, voilà, comme un chanteur ou une chanteuse. Yeah. Et.
On a le même en karaoké.
C'est vrai.
Si on n'a pas où il est.
Il est dedans.
Bon, en tout cas, merci de me recevoir chez vous. Je suis hyper content. Là, on est à.
Dans l'Évêque, dans l'Oise.
C'est ça, on a quitté la région parisienne là. Enfin, pas que ça se passe que en région parisienne, mais il y a beaucoup de mes interviews à Paris. Et là, hop, on est en pleine campagne, ça fait hyper plaisir. Merci.
Ben, merci à toi, on est très content.
On a hyper bien mangé, je le précise aux éditeurs, on a mangé du sanglier, donc ça quand même, faut le préciser, c'était hyper bon.
Pas tous les jours. Hein,
mais mariné par Albéric.
Oui. Alors, Albéric, Léopoldine, bienvenue sur Sens Créatif. C'est drôle parce qu'on s'est rencontrés en 2017, je crois.
Ouais, quelque chose comme ça, ouais, peut-être, ouais. Peut-être même avant. Ouais.
Je me pose la question, quand on s'est rencontrés, c'était lors des talks de l'agence La Suite.
Ouais.
Vous aviez déjà des enfants à ce moment-là?
On avait notre première fille, ouais.
Qui avait
un an, quelque chose comme ça.
Ah ouais, waouh. Ok. Et là, vous en avez deux maintenant.
Deux.
Ouais. Parce que ça fait partie un peu des sujets.
Ils ont 14 et 16 ans.
Ça va vite, hein, quand même.
Bah,
ça va vite.
Le temps file,
vous les nourrissez comment ici à la campagne pour que ça
aille? Sangliers tous les jours.
C'est des rigolos, quoi.
Exactement. Ouais, voilà.
Non, ils ont 4 aujourd'hui, ils ont 4 et 2.
D'accord. Et vous êtes le duo, vous travaillez ensemble, vous êtes un duo d'illustrateurs, mais pas que, on aura peut-être l'occasion d'en discuter.
On travaille à 4 mains.
Voilà.
Sur nos projets.
Depuis toujours, depuis le début. Depuis la première illustration.
Depuis 10 ans?
Oui, à peu de choses près, ouais.
Très bien.
Dès le début, la première illustration, on l'a vraiment faite à 4 mains.
Et alors, avant d'arriver à l'illustration à 4 mains, est-ce que je pourrais avoir un mini... Ah là, pardon, j'ai oublié. Je commence toujours mes interviews en demandant ce qui vous motive à sortir du lit le matin.
Alors là, si tu veux, il n'y a pas 36 solutions, hein, c'est les biberons. À un moment donné, il y en a deux à l'étage qui ont faim, quoi. Donc, c'est ça. Voilà. Alors, moi, d'un point de vue personnel, si j'extrais les enfants, c'est mes 45 minutes de lecture avant que la journée commence qui me motive.
Avant que les enfants soient debout?
Non, ils sont debout, mais tu vois, mais voilà. Une fois qu'on a réglé les enfants, voilà, il y a 45 minutes de lecture où vraiment je vais commencer à capter les bonnes fréquences. Ça c'est le bon truc pour démarrer la journée.
Et moi, je les conduis à l'école et du coup, je traverse les champs. Et bizarrement, j'adore voir le soleil se lever sur les champs. Je trouve ça magnifique et c'est très inspirant.
Tu m'étonnes. Donc ça, c'est les choses qui vous tirent le matin.
Oui, puis après, il y a le whisky du soir qui, le matin, nous donne envie de nous lever.
Très bien, très bien. Whisky préféré?
Kaolila.
Okay.
Alors, qu'on prononce a priori Kulaila, mais ça fait bizarre.
Très bien. Et donc, attends deux secondes, mais tu lis, les enfants sont déjà debout, toi tu les amènes à l'école?
Je lis quand ils sont à l'école, hein, une fois qu'on les...
Non, alors...
On les dépose, mais ça va très vite, ça va très très vite.
Le matin, 7h30, tout le monde est debout, 8h30, voilà. Plus personne, on est à nouveau 8... à deux et c'est bon.
À 8h30, notre journée commence. Voilà.
Ok, et c'est à 8h30 que tu écoutes ta fameuse...
Bah, j'écoute le fameux... Alors, j'ai deux morceaux de musique hein, favoris, hein, donc il y a le Spain in a News de Thomas Tallis, qui est un motet britannique. C'est magnifique, hein. 12 minutes 56. Après, j'ai des chants grégoriens que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Ça, c'est vraiment c'est la mise à disposition. C'est la mise à disposition. Puis je brûle un petit papier d'Arménie en même temps. Ça me,
ah ouais, voilà, ça, et tu fais ça depuis 10 ans?
Oh, plus. Ça, je fais ça depuis toujours.
C'est ton rituel.
Voilà, c'est ça. C'est la journée qui commence.
Et c'est là où on peut dire que nous avons deux bureaux.
Parce que Léo n'aime ni le papier d'Arménie.
Ni les chants grégoriens.
Bah, les chants grégoriens, non, moins le matin. Je peux les écouter en voiture, mais le matin, non.
C'est quoi ton rituel le matin?
Moi, ce sera une très longue pause de thé avec du lait, côté anglo-saxon. Et,
toi, tu fais beaucoup de veille.
Moi, je fais beaucoup de veille. C'est-à-dire que je vais regarder des images, des belles images. Je m'inspire de tout. Ça peut être des tableaux, de la... Des illustrateurs.
L'œil sur le monde du duo, c'est Léopoldine.
Ah oui, heureusement qu'elle est là.
Très clairement. c'est vraiment notre œil ouvert, c'est elle.
Ok, et toi tu es?
L'œil fermé.
Celui qui est un petit peu plus rustique, comme tu disais tout à l'heure.
L'intériorité, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas du tout. Mais l'œil ouvert, c'est Léopoldine.
Ok, voilà. D'accord. Et avant d'arriver au duo et donc de tout ce travail que vous faites en couple et toute cette vie de famille, est-ce que vous pourriez me ramener à back in the days quand vous vous connaissiez pas? C'était quoi un peu votre parcours, ce qui vous a amené
quand
à...
Vous connaissez pas ça,
ouais.
J'avais 14
ça va
ans.
Commencer à nous ramener très loin en arrière, parce qu'on se connaît depuis que Léopoldine a donc 14 ans.
Votre arrière... Ah ouais, c'est vrai, vous connaissez depuis que vous avez 14 ans.
Oui.
On n'est pas ensemble depuis ce moment-là.
Ah oui, oui.
Parce que j'étais plus âgé.
Genre, la jeunesse du duo, si vous voulez, individuellement, avant que vous passiez une équipe.
Alors moi, j'ai rencontré Léopoldine parce que finalement, ça a un impact. Hein, parce que son beau-père, je travaillais pour son beau-père qui était marchand de dessin ancien. Donc c'est déjà lié au dessin, en fait.
Ah oui, ok.
Toi, tu bossais pour lui.
Moi, je travaillais pour lui. Je l'aidais. Bon, je faisais de la paperasse, mais je l'aidais aussi à rechercher des ce qu'on appelle les attributions. C'est il achetait dans vente aux enchères dans le monde entier des dessins anciens non attribués, et il fallait chercher si c'était à Michel-Ange ou à Vinci. Et ça, c'était un boulot passionnant.
C'était toujours des Michel-Ange ou des Vinci.
Bien sûr, évidemment. Évidemment. Et Léopoldine apportait le café.
Ah, mais attends, quand t'avais
14 ans.
14 ans. Et elle me détestait.
Pourquoi elle te détestait?
Ah, parce que moi, j'étais hyper prétentieux. Okay. Alors qu'aujourd'hui, c'est complètement fini.
J'ai cru que t'allais dire que c'était l'inverse. J'ai eu peur.
Bref, donc ça, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc c'est quand même lié un peu au dessin, finalement, quand même. Cet univers de papier, de dessin, à la fois un peu le côté aussi ancien, qu'on a toujours aimé tous les deux, même si on a un style hyper pop très coloré. On adore. Tu vois, Jérémy, là, tu es chez nous aujourd'hui.
Oui.
Tu vois bien, c'est pas une maison ultra design, quoi.
Non, c'est vrai, ouais.
On est dans un univers un peu à l'ancienne qu'on aime beaucoup, quoi.
Ouais.
Et puis après, on a tous les deux fait des études artistiques.
Bah, donc toi, tu étais, tu travaillais chez mon beau-père en parallèle de tes études.
Moi, j'étais à l'époque scolarisé à Penningen. Je faisais mon master en direction artistique. Et avant, j'avais fait des études de littérature.
Et du coup, moi, ça m'a inspiré pour faire mes études.
C'est vrai. Que... C'est lui qui t'a inspiré?
Oui, parce
à
que.
Londres.
Ah, c'est génial.
Parce qu'en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais que je voulais
travailler
dans...
Je pense qu'elle trouvait que j'étais beau gosse.
Très certainement, oui.
Même pas. moi, je savais que je voulais travailler dans le monde du visuel, mais je savais pas ce que je voulais faire. Mes parents avaient un petit peu peur de me laisser choisir comme ça, out of the blue, une école. Et du coup, toi, tu nous avais parlé de Penningen. Et moi, je voulais, à ce moment-là, partir de Paris, de la France.
Et puis, c'est le moment où ta famille est partie s'installer à Londres.
Voilà. Et donc,
d'accord.
Et Léo a fait sa scolarité, enfin ses études supérieures à Londres.
Donc moi, j'ai fait Chelsea College of Art and Design à Londres en BA de communication visuelle. Voilà.
C'est une école prestigieuse, ça, je crois, non?
C'est pas mal.
Ça va.
C'est pas mal.
Donc, c'est comme ça, voilà, notre parcours, c'est ça. Et finalement, donc, c'est comme si on avait fait les mêmes études, hein, pas au même endroit, mais les mêmes études.
Ouais.
Et en se connaissant depuis très longtemps. Et quand Léopoldine est revenue en France...
Pour toi?
Pour moi.
Ah, c'est vrai?
Bah oui.
Cris, larmes, amour suprême.
Non, mais vous avez reconnecté comment avec la distance, du coup?
Tous les ans.
Ah, là, on veut du people, là, on veut du people.
C'était un podcast d'illustration.
pas que.
Non, pas que, ouais. Non. C'est une longue histoire avec beaucoup de trous, et aujourd'hui, on remplit tous les blancs. Voilà.
D'accord.
Et,
okay.
Et donc, on a commencé à bosser ensemble tout de suite, en fait. Tout de
okay.
suite.
Donc, toi, tu reviens de Londres.
Donc, j'avais pas de clients pour l'instant, à ce moment-là.
Voilà. Et moi, à l'époque, je suis DA. Hein. Je suis pas du tout illustrateur.
Ouais.
Je suis DA. Je fais quelques illustrations qui ne sont pas du tout dans le style du duo pour divers clients, mais je suis surtout DA dans l'édition. Et avec Léopoldine, on commence à travailler ensemble. Et on développe de manière complètement fortuite des illustrations pour un magazine que je dirigeais à l'époque, un magazine de voyage qui s'appelle AR, qui existe toujours. Et on a fait des illustrations, et puis il y a eu un effet boule de neige qui a été assez rapide, hein, puisque un autre magazine qui s'appelle The Good Life nous a appelé, et de fil en aiguille, notre agent, toujours le même, Morgan, qu'on embrasse et qu'on aime,
de la suite,
nous a appelé, et depuis, c'est une collaboration qui ne s'est pas arrêtée.
Ok, mais quand donc tu le rejoins, et vous commencez à travailler ensemble, est-ce que c'était... une évidence immédiate, ou parce que je crois qu'il y a pas mal de personnes, et vous me l'avez dit tout à l'heure en off, que beaucoup de gens se posent cette question de mais vous travaillez ensemble, vous faites le même métier, comment ça se passe? Au tout début, est-ce qu'il y avait des craintes? Est-ce que c'était une évidence? Est-ce que c'était de la naïveté? Est-ce que c'était
Là, je lève la main pour parler, il y a Léopoldine qui non.
Non.
Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait?
Je veux dire, parce que moi c'est cool et toi je sens que c'est une vacherie.
Pas du tout.
En fait, nous, on s'engueule quand on se voit pas.
Ah, ok.
Donc, si on bosse ensemble, ça veut dire qu'on passe nos journées ensemble.
Et tout va bien.
Et tout va bien.
Non, et il y a aussi une autre chose, c'est que je revenais pour reconquérir Albéric. Donc, il y avait intérêt.
Fallait qu'elle taffe un peu, quoi.
Je le lâchais plus. Donc, effectivement, en fait, on a tout fait à deux.
Non, mais blague à part, ça s'est fait très naturellement.
Ouais.
Je crois qu'on s'est même pas vraiment posé la question.
Non, on s'est pas posé la question.
Je pense qu'il y a eu un premier boulot où peut-être, moi, c'était une époque où j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de boulot en DA, où Léo a dû venir m'aider, et puis ça s'est tout de suite bien passé, et puis hop, et on a travaillé ensemble.
Et en fait, on passe nos journées à rire, à travailler, on se retrouve sur plein de sujets, et donc du coup, en fait, ça venait hyper naturellement de bosser
Non, ça s'est fait
ensemble,
tout seul.
Ouais.
Ça s'est fait tout seul.
Et les débuts, enfin, quand vous avez commencé, parce que vous, ce que vous me décrivez là, ça envoie du rêve, mais genre au début.
Ça envoie du rêve.
Non, mais en fait, ce qui est génial, c'est.
Mais c'est super!
Vraiment...
Mais
En vrai, je crois pas qu'on se soit vraiment engueulé pour le boulot.
Non, c'est-à-dire que.
Non,
même
pas
on
une fois.
Fait...
Non, mais je crois pas.
Non, en fait... mais évidemment, évidemment, il y a des débats, notamment sur la couleur, hein, dont on pourra parler.
Ouais, ouais.
Mais non, ça s'est toujours très, très bien passé.
En fait, on a un respect l'un de l'autre, enfin, l'un envers l'autre par rapport à notre travail. On sait où est la force de chacun et les faiblesses. Et du coup, on accepte le regard de l'autre quand c'est quelque chose de, et de positif et de négatif. Et donc, du coup, en fait, on a un échange assez facile.
Un échange, ouais, même très facile. Et puis, il y avait deux choses aussi qui étaient très importantes, qui sont venues nous aider. C'est qu'on a considéré deux choses. La première, c'était qu'on travaillerait à 50-50, quoi qu'il arrive.
Ça veut dire quoi?
Justement, je vais t'expliquer. et l'autre chose, c'était aussi, comme on était mariés,
ouais,
qu'on travaillait sur le temps très long. Et c'est le moment où c'est la politique des grands nombres.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout s'annule. C'est-à-dire que, ou tout s'équilibre. Non, mais voilà, tout s'équilibre. C'est-à-dire que si un jour, bah, Léo, elle est plus forte, elle travaille plus, moi, j'ai un petit coup de mou, bah, dans 6 mois, ce sera l'inverse.
Bien sûr.
Et en fait, on continuait, quoi qu'il arrive, quelle que soit la quantité de travail que l'un ou l'autre faisait, à tout partager, à diviser en 50-50.
À la fois d'un point de vue financier et puis à la fois d'un point de vue technique, quoi.
Et même si une illustration est faite plus par l'un ou par l'autre, ça reste une illustration faite par le duo. Et c'est du coup notre entité, en fait.
Je crois qu'il n'y a pas un client qui sait qui a fait quoi.
Ouais.
Ni même notre agent.
D'autant que beaucoup d'illustrations sont réellement faites à deux. Il y en a certaines qui sont dans juste le même style, le style du duo. Et puis c'est Léo ou c'est moi, et puis il y en a beaucoup où en fait, où à un moment donné, pour X ou Y raison, on s'est refilé le fichier, quoi.
Oui, oui, vous êtes interchangeable.
Voilà, complètement, puisque c'est un style qu'on a créé ensemble.
Mais
le plus long, c'est la couleur. C'est
voilà,
qui décide.
Des heures entières de
débat. Pourquoi? Alors, moi, la couleur, c'est vraiment un truc que je trouve compliqué.
Parce que Léo a un problème.
Mais moi aussi, j'ai un problème avec la couleur.
Il n'y a rien d'autre à dire, elle a un problème. Donc, bah si.
C'est quoi le problème?
Non, c'est juste que nous ne sommes pas d'accord
non,
sur
pas,
les.
On n'a pas vraiment les couleurs, on n'a pas du tout le même avis. C'est très, très rigolo. Moi, je pense que j'aurais tendance à forcer le contraste et la couleur. Et Léo est plus dans quelque chose de plus subtil, de plus ténu, de plus maîtrisé, tu vois.
Non, mais toi, tu parles avec des couleurs plus sombres dans le. Enfin,
plus marqué,
c'est plus
contrasté.
Non, c'est gris aussi, c'est très masculin.
N'importe quoi. Bon,
non,
bref, on va pas recommencer, mais.
Si, recommencez, je vous en prie.
Non, mais c'est un vrai débat. Ça a pu nous arriver de nous écharper pour 2% de science et 1% de non. Hein.
C'est la passion, ça.
Ouais.
Voilà, alors c'est pour ça, pour revenir à des choses beaucoup plus terre à terre, qu'on est ravis de travailler parce que 99% de notre activité, peut-être un petit peu moins, si on exclut les livres qu'on fait avec Gallimard Jeunesse, 90% de notre activité est une activité commerciale.
Ouais.
C'est pour ça qu'on est ravis de travailler avec des marques qui sont bien brandées, où on
est content
de s'approprier, entre autres, des couleurs.
Leur code, ah oui.
Hyper marquées, avec des chartes très précises. Alors là, nous, comme on l'a déjà dit et on le répète toujours avec plaisir, on répond à des commandes et on est ravis de le faire. On le fait sans aucun complexe ni aucun scrupule. Et pour résoudre ces questions de couleurs, il n'y a rien de mieux qu'une marque hyper forte.
Oui.
Une marque hyper forte qui a été bien chartée et qui sait se défendre.
Oui.
Et c'est très agréable de voir, il y a eu des clients comme ça où il y avait une charte imposée où au départ on était en train de se demander comment on allait s'en sortir et quand on la met en illustration et en couleur, c'est incroyable.
Oui, ça marche bien. Ouais.
Je pense notamment à une célèbre marque de champagne Orange, très connue. Uh-huh. On avait vraiment du mal à s'approprier cette couleur qui est a priori pas dans nos codes et on en est ressorti conquis. Vraiment conquis. C'était agréable. Ouais. En plus, du coup, c'était génial de voir comment. Il y a eu un grand débat. D'ailleurs, on a fait des paris pour savoir comment cette couleur était composée.
Et
bah, c'était pile entre nous deux.
Mais c'est ce qui montre l'équilibre.
Vraiment, je pense qu'à 10% de jaune et 10% de mage, on était partagés. Enfin voilà, ça, c'est vraiment des blagues de graphistes et d'illustrateurs.
C'est vrai, c'est vrai. Mais vous me parliez tout à l'heure des forces et des faiblesses. Parce que c'est sûr, voilà, vous êtes à deux, donc du coup, c'est top de pouvoir se nourrir l'un de l'autre. Quelles sont ces différences et quelles sont ces forces et faiblesses que vous.
Écoute, les différences, elles sont infinies. Enfin, déjà, on est homme-femme. On n'est pas vraiment de la même génération. Hein. Léo, c'est une digital native.
Et pas toi.
Je ne suis absolument pas. Moi, je suis un peu plus âgé. mais suffisamment pour que quand j'ai fait mes études de design, les ordinateurs, on n'en avait pas tous, et c'était dans une salle à part, et c'était vraiment le début, quoi. Ouais. Tout début. Donc ouais. Ça, c'est déjà énorme, et au quotidien, ça dans notre boulot, ça a beaucoup changé de choses. Je disais tout à l'heure que Léo, c'était notre œil ouvert sur le monde.
C'est qui s'occupe du compte Instagram aussi.
Entre autres, mais ça, c'est la grande force de Léopoldine, et je serais incapable de le faire.
Mais pourquoi tu serais incapable de le faire? Ou pourquoi?
Parce que j'ai pas cette culture-là. Moi, je suis quelqu'un du, même si Léopoldine est aussi, moi, je suis quelqu'un du papier.
Ouais.
Je suis vraiment un homme du livre, un homme de l'encre, de la main, même si on fait des illustrations digitales.
Ouais. Très vectoriel.
Par exemple, les croquis, c'est souvent toi qui vas les faire.
Bah, quasiment. Toujours, ouais. Les refs, c'est moi.
Voilà. Toi, t'es très fort dans tout ce qui est composition.
Ouais.
Et moi, je vais faire la couleur.
Non. Léo est hyper fort, par exemple. Il y a 3 ans maintenant, ou un petit peu plus, on a sorti un bouquin avec Gallimard Jeunesse, dont je parlais tout à l'heure, sur les rois et les reines au niveau mondial. C'est Léo qui a mené tout le projet, toute seule. Moi, j'ai dû faire peut-être 2 personnages, mais pas plus. J'ai été vraiment ébloui par l'analyse, si tu veux, stylistique en termes de vêtements, de détails que Léo avait pu fournir, tout en menant un travail hyper abstrait, puisque notre style est très abstrait, quoi.
Comment ça, votre style est très abstrait?
Parce qu'il est très géométrique, en tout cas.
Oui.
Alors, géométrique, pas abstrait, non, tu as raison.
Parce que très figuratif.
Tu as bien raison. Donc voilà, ça, moi je dirais que je travaille plus dans la masse et Léo plus dans le détail.
Ouais. Et c'est vrai que si vous bossiez tout seul, ben, il vous manquerait les détails d'un côté.
Alors je crois qu'aujourd'hui, si tu veux, ça fait maintenant 10 ans qu'on fait le duo, on a une telle force d'entraînement.
Oui, voilà.
Finalement, mais on lâche jamais un projet sans l'avoir montré quotidiennement à l'autre.
Et du coup, ça marche comment un petit peu le duo au quotidien, vous vous organisez comment?
Ben, voilà. Généralement, on a donc 2 bureaux séparés. Donc on travaille
avec une porte.
Ouais. Donc on travaille pas dans le même espace de travail et du coup on choisit qui commence. Généralement, de toute manière, on fait les refs ensemble.
Alors ça c'est systématique. Déjà on prend le brief ensemble, ça c'est systématique. Même si c'est moi qui tiens le crayon, on ref ensemble et je suis pas seul à valider une compo.
Ouais.
Ça c'est.
Non, puis le concept, on le réfléchit ensemble, on fait les croquis.
Ensemble, toute la partie avant, on le fait ensemble. Et puis ensuite, en fonction de notre agenda, alors où on se répartit, c'est Léo qui prend tel client, c'est moi qui prends tel client. Ou alors on attaque ensemble. Ça nous arrive si on a un peu de temps, c'est devenu un peu rare ces dernières années, mais de se mettre carrément tous les deux côte à côte sur le même ordi, quoi, pour faire ça ensemble. C'est devenu assez rare parce qu'on a plus trop le temps, quoi.
Mais c'est cool d'avoir votre espace chacun. J'ai eu la chance de voir leur bureau. Je faisais chacun votre petit monde, votre petit univers à vous. Et puis hop, il y a une porte où vous pouvez vous refiler les papiers ou.
Ouais, il y a ça. Et puis tu vois, quand on a commencé, on avait le drive, la Dropbox, le machin, où en fait on se partageait tout. Puis vraiment, ça nous a saoulés. Et maintenant, on a chacun nos ordi, chacun notre monde, notre univers, quoi, et qui pourtant est parfaitement perméable, quoi.
Mais vous partagez toujours les fichiers, non?
On se les envoie par mail.
C'est drôle.
On se les envoie par mail ou alors on prend une bonne vieille clé USB, quoi. Mais
tiens, ma chérie, tiens, mon amour, hop.
Non, mais c'est ça. Mais vraiment, c'est ça qui est assez génial dans notre manière de fonctionner, c'est qu'on a chacun notre monde et pourtant c'est le même.
Oui. Et tu me disais, et je sais que c'est un point qui est très important pour vous, la différence entre artiste et artisan. C'est, je vous ai rencontré une fois en 2017. Vous êtes passé sur le podcast de la suite il y a quelques années, vous l'avez mentionné de nouveau, et là tu l'as mentionné encore tout à l'heure. C'est quelque chose qui me semble...
J'ai eu la chance d'avoir comme prof en dernière année de Penningen, quelqu'un que beaucoup de tes auditeurs doivent connaître, qui s'appelle Étienne Robial, qui est le fondateur de Futuropolis, et aussi le DA fondateur de Canal+.
Ok, rien que ça.
Qui a aussi fait tous les logos que vous connaissez, TF1, M6, les Taxi G7, enfin vraiment un monstre sacré du graphisme et de l'illustration, si on pense notamment à Futuropolis. Ce type-là qui était brillantissime, nous a dit, les artistes, vous sortez, vous allez dans une autre école. C'est très bien, c'est super d'être artiste, mais ne faites pas une école d'art appliqué, allez faire une école de beaux-arts. Pour au moins une bonne raison, c'est que le jour où vous prendrez votre premier brief client, si jamais vous pensez que vous êtes des artistes, vous allez être excessivement déçu. Vous serez frustré dans votre vie. Parce que c'est pas quand on prend un brief client qu'on a une vocation artistique. Je dis pas qu'on n'a pas de temps en temps des satisfactions d'ordre visuel ou d'ordre plastique, coloriel ou autre. Mais là, on est de l'ordre de la pure sensation. L'artiste et l'artisan font pas la même chose, font pas le même métier, tout simplement. Nous, ce qu'on cherche, c'est à faire le mieux possible ce qu'on sait faire, à utiliser le mieux possible les outils pour lesquels on a été formé.
Ouais.
Mais on n'a pas, je crois qu'on peut le dire de manière très simple, on délivre pas de message. Et je crois que c'est la différence majeure avec un artiste. Mmh. Nous, on est au service de nos clients.
On fait aussi du travail d'auteur, mais c'est plus... c'est pour répondre, enfin, c'est répondre à une satisfaction de, par exemple, notre culture visuelle.
Ouais, voilà,
design,
c'est une satisfaction culturelle.
Et, c'est nos envies propres.
Ouais.
Mais servir nos clients, c'est un plaisir. Et
oui.
On fait avec grand plaisir.
Voilà. Ouais, ouais. C'est
notre métier, c'est notre quotidien. Et on essaye vraiment de le faire le mieux possible. Et je dirais, hein, c'est pas pour nous envier des fleurs, mais. Je pense qu'une partie du succès que le duo rencontre vient de là. C'est-à-dire qu'on s'attache vraiment à fournir le meilleur travail possible à nos clients.
Ouais. Et le travail d'auteur dont tu parlais, Léopoldine, c'est les side, c'est les trucs à côté?
Non. Je pense que tu parlais plus d'Image République.
Oui. Ah oui, d'accord.
Ou de Gallimard. Là, c'est-à-dire qu'on va dessiner des choses qu'on a envie de dessiner.
Ah oui, ça c'est émane de vous, c'est pas un brief.
Voilà, c'est ça.
C'est pas un brief. Après, ça répond aussi à la culture actuelle.
Ouais, très pop.
Donc voilà, donc ça répond à une demande. Mais là, c'est agréable aussi pour nous, c'est que on y glisse des clins d'œil de ce que nous aimons, de ce que nous de
oui,
d'attirance.
C'est plus ouvert, ouais.
Ouais,
vous vous sentez pas obligé de mettre vos références personnelles dans des briefs clients.
C'est arrivé, hein, mais non, pas spécialement.
Non, mais c'est intéressant de voir les choses comme ça en tant qu'artisan, parce que c'est vrai que moi, je me souviens quand je me suis lancé. Alors moi, j'ai fait les beaux-arts en l'occurrence, mais j'y connaissais rien en termes de le terme art appliqué est arrivé beaucoup plus tard dans mon parcours où j'ai pu faire la différence. Mais je sais quand j'ai débuté en tant que graphiste, on m'avait vraiment le graphisme, c'est différent de l'illustration, mais il y a ce côté, je sers le client, mais il y avait vraiment ce côté, ceci est le graphisme, vous êtes des artistes, tu vois. Et que j'étais très frustré, j'étais très précieux sur mon travail au tout début, qu'en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai appris à simplement être professionnel et à simplement...
Parce que dans le graphisme, si tu veux, il y a une mode, un courant, hein, enfin, français d'ailleurs, il y a eu une période très intellectuelle du graphisme.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Dans les années 60-70, il y a eu un mouvement hyper intello. Et aujourd'hui, beaucoup de gens aimeraient retrouver ça dans
ah oui, ah, moi ce que je voulais au début.
Ouais. Parce que je pense aussi que l'illustration, elle est plus immédiate. Enfin, déjà, elle est 90% du cas, elle est figurative.
Oui.
Donc, elle est plus, c'est quand même plus accessible. Donc, je pense aussi que contrairement au graphisme, ça doit peut-être moins solliciter ce type de personne, tu vois.
Oui.
Qui ont une vocation à l'abstraction, à l'intellectualisation, ce genre de choses.
Ouais.
J'ai aucune preuve pour étayer ce que je viens de dire.
Non, mais c'est le duo que je viens chercher, c'est fou,
intuition, hein.
Ouais. Non, mais je pense que ça peut enlever aussi une culpabilité que parfois on peut ressentir quand on fait des. Peut-être pour les plus jeunes dans la profession, on se retrouve à devoir faire des compromis ou qu'on ne veut pas lâcher tel ou tel truc, alors qu'en fait, quand on se présente comme des artisans au service d'eux, on devient beaucoup moins précieux sur sa profession, j'imagine.
Ouais, il y a cette histoire de préciosité qui est très intéressante. Puis toi, tu parlais de quand on est jeune, on se dit toujours, ouais, j'ai mon style et tout. Moi, je me souviens d'un de mes profs, alors c'était pas du tout en dernière année, c'était en seconde année de Penningen. J'avais fait un dessin, j'étais très fier de moi, et puis je vais lui montrer, et puis je lui demande si c'est bien. Si mon dessin est bon.
Je pense que j'ai eu la même expérience.
Et il me dit, non, c'est-à-dire qu'en fait, il est faux. Je dis « Ouais, mais en termes de style, c'est bien. » En fait, il est faux.
C'est la question qu'on se pose tout ça.
Donc voilà, donc le style, tu peux te le carrer et puis refais-moi un dessin bon et puis on verra après pour le style. Et puis, on en parlait tout à l'heure en off ensemble, hein, tu parlais des gammes.
Ouais, ouais.
Voilà, il faut faire ses gammes. Il faut faire ses gammes et puis après, on verra les erreurs, les accidents, tout ça. On verra.
Et qu'est-ce qu'il
fait notre métier.
Quand il disait que c'était faux, il voulait dire quoi, que c'était faux?
Oui, je pense qu'il devait y avoir une erreur de proportion, une erreur de lumière, j'en sais rien.
Quand on est en termes purement techniques.
Oui, là, en l'occurrence, dans mon souvenir, je crois que c'était un dessin d'observation au Muséum d'Histoire Naturelle.
Ouais.
Je crois que c'était ça. Donc aujourd'hui, si tu veux, si on fait un parallèle avec nos clients, on parlait des couleurs et des chartes graphiques tout à l'heure. Si un client nous, si on dit à notre client, ouais, alors, en fait, vous savez, votre jaune, franchement, il est pas terrible. Alors, on vous l'a modifié un tout petit peu.
Ah, mais ça passerait
parce
pas.
Parce que nous, on le trouve beaucoup plus beau.
Ouais, c'est
il
ça.
Est plus joli. Mais t'imagines la gueule du client?
Oui, oui.
Donc, voilà. On est sur une autre position. Qui est très confortable, en fait, hein, aussi pour nous, créativement.
Bah, du coup, la créativité se place à différents niveaux.
C'est-à-dire?
Bah, notamment si sur la composition ou.
Voilà. Si, quand on nous demande de dessiner, je sais pas, ouais, deux personnages qui communiquent l'un vers l'autre, et bah, en fait, c'est nous qui allons trouver, bah, plus le cadrage, parce que si la charte couleur est indiquée, si on a déjà, on nous indique comment ils vont être habillés, comment.
Ouais, parce que parfois, effectivement, le brief va jusqu'à, si tu veux, race, sexe, genre et stylisme des personnages. C'est parfois excessivement précis.
Ah ouais, wow.
Ouais, on a eu pas mal de clients comme ça, et du coup, bah, effectivement, ça peut limiter, en fait. On pourrait avoir l'impression que ça limite, et en fait, pas du tout, parce que du coup, c'est à nous de trouver la position.
Ouais,
et
puis l'astuce.
Exactement, l'astuce
visuelle, illustrative, qui va mieux répondre.
Nos personnages sont quand même très simplifiés, donc comment faire comprendre qu'il s'amuse, qu'il a un rictus, que là en fait c'est juste un clin d'œil qui va faire comprendre qu'il est d'accord.
Ouais.
Et c'est pas une bulle avec un pouce levé.
Et puis après notre satisfaction.
Ah oui oui oui.
Et puis après notre satisfaction d'un point de vue graphique, la visuelle, tu vois, elle est pour nous, c'est que ce clin d'œil, on va le résoudre en faisant
une demi-courbe,
un huitième de cercle qu'on aura coupé avec une diagonale à 45 degrés. Et là, on va jubiler. Quoi.
Et
wow.
Nous, ça, on adore.
Ouais. Parce qu'on a trouvé la manière
de géométriser
la réponse.
Oui, oui, parce que votre style, on ne l'a pas précisé, mais c'est du flat design. On peut...
Alors, oui, c'est du flat design, alors, même si on n'a jamais été tellement fan de cette appellation.
Oui.
D'autant plus. Est... On est encore moins fan aujourd'hui parce que c'est plus à la mode.
Mais c'est
enfin, c'était très à la mode, on était hyper contents. Mais aujourd'hui, ça l'est moins. Non, en fait, nous, on fait du boulot, c'est géométrique. Hein. On dessine avec des carrés, des ronds et des triangles.
Voilà.
C'est tout. Hein.
Ouais. On associe,
qu'on additionne, qu'on découpe.
Voilà, on découpe et tout. Et en fait, c'est comme quand on est enfant et qu'on fait avec des légomètres, là.
Ouais.
On fait la même chose, mais en version...
C'est exactement ça.
On fait des Legos, quelque part. Des Legos en aplat.
C'est exactement ça qu'on
fait. Et en fait, on adore trouver, effectivement, la
simplification des formes. Et ce qui est très drôle, c'est que les boulots qui, par moment, là, c'est de la tambouille, hein, ce qu'on te raconte, mais les boulots qui nous ont posé problème, je parle d'un point de vue technique, hein, genre un truc qu'on n'a pas réussi à dessiner, c'est quand on a voulu aller vers un dessin plus libre, plus manuel, quoi. Et on l'a regardé, on s'est dit, putain, ça marche pas, ce truc, comment on va faire, quoi. Et on est revenu à du rond, du carré, et on a trouvé la solution.
Comme quoi, vous excellez dans la contrainte. Au plus.
Nous, on adore ça.
Ouais.
Ouais. On aime vraiment beaucoup ça.
Mais pourquoi?
Enfin. Une question de goût personnel.
Non, mais. Parce que souvent, il y a ce truc de genre, ah, on me laisse pas ma liberté.
Mais c'est
etc.
parce qu'on n'est pas des artistes.
Ouais.
C'est parce qu'en fait, dès le départ, je pense qu'on a répondu en fait déjà à un brief quand on a créé ce duo, c'est-à-dire que on voulait
monter ce studio. Et puis je crois, si tu veux, c'est que notre âme d'artiste, elle s'exprime ailleurs dans notre vie quotidienne.
Ouais. Mm-hmm. C'est qu'en fait, on a plein c'est, de, on est nourri en continu voilà. par plein d'autres choses aussi.
Voilà, par l'environnement dans lequel on est. Léo parlait tout à l'heure des champs qui y a autour de nous, dans la campagne, la lecture. Les tableaux qu'on met au mur, les vieux bouquins qui traînent partout, enfin tout ça nous satisfait, comble non, ce peut dire c'est pas comblé, c'est satisfait la notre pente artistique. Et notre métier, c'est notre métier.
Oui.
Et en fait, encore une fois, je vais me répéter, mais comme des artisans. Et un métier, ça s'apprend, tu vois, ça s'apprend sur des années. Tu vois, le compagnonnage, les maîtres, nous, notre aspiration, c'est pas d'être des bons illustrateurs qui vont finir leur boulot dans 5 ans, c'est d'être des maîtres, tu vois, dans ce truc. Parfait, qu'on va réussir à maîtriser chaque jour de mieux en mieux.
Mais c'est maîtriser votre artisanat spécifique.
Ouais, exactement. Oui.
Et tu me disais tout à l'heure, par rapport entre guillemets au flat design, qui justement, vous avez été connu grâce aussi donc au fait du flat design. Enfin, je sais pas comment il faut dire, tu vois. Et de tes propres mots, c'est moins à la mode.
C'est moins qu'on puisse dire.
Et comment vous inscrivez du coup quand fut un temps vous aviez le vent en poupe là-dedans et vous étiez peut-être tout devant à faire ça et aujourd'hui comment faites-vous pour vous renouveler?
Tu te souviens tout à l'heure quand je t'ai dit on travaille à 50-50 parce qu'on est dans le temps très long.
Ouais.
Bah, on est toujours dans le temps très long aujourd'hui. C'est-à-dire que bon évidemment là ce style d'illustration n'est plus tellement à la mode, mais c'est ce qu'on fait tous les deux.
Ouais.
À un moment donné, quand on a vu la courbe infléchir, on s'est dit, ah, qu'on change un peu tout ça.
Tout le monde autour de nous nous a dit oh, vous allez devoir changer.
On a essayé. Bah, c'est pas ce que le duo fait. Le duo fait ça. Voilà. Ça durera le temps que ça durera. C'est ce que fait le duo. C'est ce qu'on fait bien.
Ouais.
En fait, le but du jeu, c'est pas d'être à la course perpétuelle, d'être à la mode, de répondre à tous les styles. C'est de savoir répondre à. Bah, en fait, c'est notre style.
C'est
notre manière de travailler ensemble. Ouais. Et c'est notre manière de.
C'est ce qu'on fait tous les deux.
Ouais, voilà.
Voilà. Et c'est ce qu'on fait bien ensemble.
Voilà. Donc, on reste à ce qu'on sait bien faire ensemble pour le faire encore mieux.
Ouais.
Et ça évolue.
Évidemment, hein, si tu regardes nos premiers dessins par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, la marge est incroyable. Évidemment que ça bouge.
Ils n'avaient pas de yeux.
Ah, les premiers personnages n'avaient pas de yeux. C'est quand même dingue. Évidemment que ça bouge, bien sûr.
Ouais. Bah, on peut voir votre style se bonifier avec le temps, quels que soient les modes de toute façon.
Je pense que si on devrait caractériser l'évolution de notre style, il deviendrait, je trouve, à la fois de plus en plus géométrique, mais de plus en plus réaliste.
Oui.
C'est-à-dire qu'on enrichit notre palette d'expression, nos subtilités chromatiques, voilà, dans le travail ce qu'on fait. Le travail, en gros, il est découpé en deux, hein, quand même. Hein. C'est quand même beaucoup un travail un caractère design et du design d'objets. Ouais. Pas du design de produit, hein.
Oui.
Vraiment, on dessine des objets. Tout simple, hein. Sur fond blanc, blam, on dessine des objets. On nous demande beaucoup, beaucoup ça.
Et en quoi est-ce que ce style est représentatif de qui vous êtes? Enfin, je m'explique, je discutais avec un prof d'illustration il n'y a pas longtemps qui, lui, a banni le terme style de son enseignement.
Il
dit que le style, ça n'existe pas. En fait, que les étudiants cherchent toujours quel est mon style et que c'est parfois un sujet d'angoisse aussi parce que quand on sort diplômé, on recherche une palette très. Quelque chose de fort. Alors qu'en réalité, moi, c'est aussi quelque chose que je découvre au fur et à mesure de mes interviews et dans mon parcours, c'est qu'en fait, pour moi, le style est un reflet de qui je suis. Et c'est pas juste graphique, en fait, c'est ma personnalité, c'est qui je suis.
Mais alors, tu sais, ce qui est très drôle, c'est que notre client historique, c'est Image République, dont on a déjà parlé.
On a fait beaucoup de choses avec eux.
Énormément de posters partout avec eux. On les remercie, d'ailleurs, on est vraiment très flattés de leur confiance et de leur fidélité. C'est un petit message personnel. Mais vraiment, c'est très agréable de travailler avec eux. Et la première fois qu'ils nous ont vus en vrai, ils ont dit « Ah, c'est vous ?»
On pensait que vous étiez tout plat,
non, mais...
avec des couleurs pures.
Ils pensaient qu'on serait genre avec des baskets, des doudounes fluo, qu'on serait hyper pop, quoi. Alors qu'on arrivait en kaki, en marron.
C'est drôle.
Un peu à l'ancienne, quoi.
La perception
un peu à l'ancienne. Donc c'est pour ça que notre style, c'est pas notre style, c'est le style du duo. Le duo, c'est une entité, si tu veux, c'est une entité tierce. C'est ni Léopoldine, c'est ni moi, c'est le duo.
Ouais.
Et aussi, c'est quelque chose qui... Enfin, ça reflète notre personnalité dans le sens où on aime beaucoup rire. On est, je pense, assez joyeux, mais surtout, on fait des blagues perpétuellement. Et nos personnages sourient tout le temps.
Ouais, bien sûr.
Ils rigolent tout le temps. Alors, bien sûr, avec certaines commandes, ils ne sourient pas.
Oui.
Mais
ils sourient moins. Tu sais qu'au début, je t'interromps deux secondes, nos tout premiers personnages... Leur tête, c'était un rond, un pur rond, quoi.
Ouais.
Et le sourire était la moitié du visage. Ben, les clients, au début, nous ont dit, non, mais faut quand même qu'ils sourient un peu moins.
Voilà. Et nous, je pense qu'on passe notre temps à sourire, rire, etc. Et donc ça, c'était une réflexion. Enfin, pour moi, en tout cas, le duo, c'était faire quelque chose.
Ouais, c'est joyeux.
C'est joyeux.
De joyeux entre nous deux. Et c'est quelque chose sur lequel on s'est toujours retrouvé comme étant un projet joyeux quand on bosse ensemble sur le duo. Et du coup.
On a eu un. Je les citerai pas par discrétion, mais on a eu des clients qu'on a refusés. Parce que c'était pas
assez joyeux.
Ouais, ou déjà ça ne
les pompes funèbres.
Alors, tu sais que dans le village d'à côté, il y a des pompes funèbres qui s'appellent les pompes funèbres cruelles. Moi, je veux bien travailler pour eux.
Waouh, punaise, c'est dur.
Ouais. Non, mais voilà, donc il y a cet état d'esprit, effectivement, tu vois, un peu acidulé du duo, très souriant, qu'on aime bien, quoi.
C'est comme...
qui correspond à une de nos personnalités.
Une de nos facettes,
ouais,
exactement.
Voilà, c'est ça.
Vous faites votre travail très sérieusement, mais c'est, on peut presque dire, une cour de récréation.
Bon, évidemment, il y a eu des moments de douleur, hein, ou des trucs, tu vois, où tu t'es dans la tambouille, tu n'y arrives pas, tu te couches tard. Enfin, c'est...
Ah, et du coup, la dynamique du couple dans ces moments-là.
Moi, je vais me coucher.
Moi, je travaille.
Tu te démerdes.
Non, c'est pas ça, c'est qu'on a deux rythmes.
Bah, on n'a pas du tout le même rythme.
Ok, parlez-moi de
Léo,
ça.
Léo, c'est un oiseau de nuit.
Moi, j'adore travailler la nuit. Par exemple, enceinte de notre petit garçon, j'ai fait Gallimard, justement, un livre jusqu'à quasiment le moment d'accoucher. Le soir, la nuit, en fait, c'était le moment où j'étais reposée, zen, je n'avais rien d'autre à faire et c'était le moment de créativité pure et je me suis éclatée à faire ça le soir.
Alors que moi, je suis bon de 8h30 du matin à 8h45.
Non, moi je suis aussi comme ça, je suis pas du tout de nuit.
Ouais. Donc voilà, chacun notre.
Ah, mais c'est comme si l'entreprise tournait constamment. Alors tu bosses la journée, tu bosses
le
la
duo,
nuit. Voilà, c'est ça,
H24. Et tu sais que souvent nos clients nous ont dit, mais c'est dingue. Alors c'est rien à voir avec nos rythmes respectifs, mais vous êtes hyper réactifs. Mais pour nous, c'est la base. C'est-à-dire que.
Mais c'est parce qu'on a travaillé aussi dans on connaît le milieu.
On connaît le milieu des agents, si tu veux, des grandes marques, tout ça. Où... Ça fait partie. Les compétences de duo, c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire super réactif, super rapide, super pro. Non, mais ça fait bizarre de dire ça comme
non,
ça.
Mais
ça fait pas très artiste, illustrateur, j'adore ceci, j'adore cela, mais.
En fait, nous.
On fait bien notre métier.
Ouais, ouais.
Le but du jeu, c'est. On nous donne un format et il y a une zone blanche de texte, et on va pas se dire, oui, mais nous, on est des créatifs, ça rentre. Non, notre dessin, il mériterait d'être un peu plus gros, vous allez changer vos colonnes de texte. Non, en fait, nous, on va trouver la solution illustrée pour que ça rentre bien dans l'espace. Et en fait, c'est des choses comme ça.
Je pense que ça
le
aussi,
but du jeu, c'est de bien répondre à la demande.
C'est aussi l'expérience de nos précédents métiers avant. C'est-à-dire que, comme je te le disais tout à l'heure, on a tous les deux été DA avant. Avant d'être illustrateur.
Oui.
Donc en fait, on maîtrise un peu. Ouais,
vous savez comment ça se passe
on
de l'autre côté.
Voilà, on sait aussi les problématiques qu'ont les autres sur le produit fini.
Et que nous, et on arrive généralement en dernier dans le processus.
Oui, oui, dernier maillon.
Et
au lieu de mal le prendre en se disant ouais, on est le dernier maillon de la chaîne, si tu veux. Non, au contraire, on anticipe, on comprend bien. Hein, c'est aucun problème de d'arriver en bout de chaîne.
Quel conseil vous donneriez du coup vous êtes autant des créateurs. Et vous avez autant l'état d'esprit du DA avec le fait que vous savez quelles sont les contraintes des directeurs, des directrices artistiques, etc. Quel conseil vous donneriez aux illustrateurs, aux illustratrices qui sont de l'autre côté et qui justement, vous me parliez du fait de vous adapter. Enfin, ma question c'est.
Alors moi j'ai compris ta question. Enfin,
vas-y.
Tu veux voir si ma réponse. Tu me dis si je me gourre. Hein. Mais en fait, il faut jamais prendre le client pour un con.
Ouais, c'est tellement important ça.
Il faut jamais le faire. C'est si tu prends ton client pour un compte, tu travailles pas pour lui, tu vas travailler pour quelqu'un d'autre. Et il y aura quelqu'un d'autre qui sera ravi de travailler pour lui. Il faut pas mépriser ses clients.
Mmh. Et je pense que c'est parfois une tentation que les créatifs font de genre ouais. Mais il comprend pas.
Parce qu'on a les mollets qui gonflent parce qu'on est les créas quoi. Ouais. Mais non, faut arrêter. Faut pas mépriser ses clients. Faut les prendre au sérieux. Faut les respecter. Faut respecter leurs contraintes qui sont pas les nôtres.
Ouais.
Nous, on se prend la tête devant nos ordi, sur nos tablettes graphiques, sur des questions de couleurs dont on parlait tout à l'heure en rigolant. Mais eux, ils ont des produits à vendre, des marges brutes, des marges opérationnelles, enfin des trucs auxquels on comprend complètement rien.
Ouais.
Mais ils ont leur vie et leur métier aussi.
Ouais.
Moi, vraiment, si j'ai un conseil à donner à des jeunes qui arrivent, c'est ne méprisez pas vos clients.
Ouais.
Essayez de les comprendre. Essayez de comprendre quelles sont leurs contraintes, leurs objectifs propres, quoi. Si par exemple pour une marque tu bosses pour le service marketing ou si tu bosses pour le service communication interne, ce sera pas les mêmes enjeux.
C'est clair.
Donc ça aussi c'est un autre conseil que je donnerais et notre expérience de DA avec Leopoldine a été forte là-dessus aussi, c'est de savoir ce que c'est qu'une entreprise. Ça paraît très bête, mais si tu sais pas ce que c'est qu'une entreprise,
rien que les processus, rien que par exemple tenir un délai. Pourquoi? Parce qu'en fait ils ont des délais d'impression. Et des délais de sortie, etc., etc. Et en fait, on a beau être le dernier maillon de la chaîne, si on dit oui, mais c'est pressé, c'est pour dans 3 jours. Si on sait le faire, on peut le faire. Ouais. Et il faut en fait tenir les choses et bien les faire pour en fait justement ne pas impacter sur les métiers des autres.
Bien sûr.
Voilà, c'est le respect
plus,
sur tout
plus,
le long de la chaîne.
En plus, je me corrige, on n'est pas toujours le dernier maillon de la chaîne, on est même souvent d'ailleurs pas le dernier maillon, parce que derrière nous, il y a souvent l'imprimeur.
Oui.
Ouais, bien sûr.
Le programmeur, l'animateur, si c'est pour l'animation, et lui aussi, il a son timing, son agenda, tu vois tout ça.
Qu'il a bloqué, etc. Et
donc vraiment, les conseils, c'est ne pas mépriser ses clients, connaître autant que possible l'intégralité de la chaîne, quoi.
Ouais.
Et pour savoir comment prendre sa place dans cette chaîne.
Ouais.
C'est pas prendre toute la place comme un artiste avec un ego surdimensionné qu'on a quoi qu'il arrive. Mais c'est encore une fois, bien faire son job et faire le mieux possible. Et tant qu'à faire, se rendre indispensable.
Tant qu'à faire. Bon. Et alors, toute cette rigueur, cette discipline avec des enfants.
On l'a pareil.
Pareil.
Non, mais,
c'est vrai.
Non, mais je vous crois, mais comment du coup? Donc, vous avez deux enfants qui ont quel âge, rappelez-moi?
4 et 2.
4 et 2. Moi, j'en ai un qui a 2 ans et demi. Ouais. Ça fout le bordel. C'est genre. Un enfant, ça. Enfin, comment.
Non, on a de la chance, déjà, on est deux.
Oui.
Oui,
enfin. Non. Ça oui. Déjà, c'est
il
énorme.
Il y a beaucoup de. Ouais.
Bah, c'est énorme.
On est. Bah, oui, en fait, c'est qu'on est toujours là, à deux. Donc, ça.
C'est-à-dire que quand il y en a un qui est fatigué, l'autre prend le boulot, quoi. L'autre s'occupe des enfants.
Ouais.
Ça nous a été très très précieux quand même.
C'est... Non, et puis c'est des règles. Enfin.
Comment vous organisez Non, pardon, je t'ai coupé, Léopoldine.
Non,
continue.
En fait, je suis en train de réfléchir. En même temps, en fait, c'est surtout.
Parce que deux freelances, vous êtes freelance en couple. Vous avez des enfants.
Les enfants, ça a dû nous pousser à être encore plus efficace.
Ouais, moi aussi. Mais vas-y, continue.
Non, mais je n'ai pas grand-chose de plus à dire que ça.
C'est en fait, c'est que du coup, on rentabilise notre efficace, temps. Mais... En fait, non, c'est qu'on rentabilise notre temps. On est conscient de ce que c'est que le temps libre, en fait. C'est surtout ça.
Oui.
C'est que, du coup...
Et on en veut pour notre vie de famille.
Oui. Ouais.
Oui, mais enfin, je pensais du temps libre à moi toute seule.
Ah oui, d'accord.
Enfin, c'est-à-dire sans les enfants.
Égoïste. T'as vu ça, c'est égoïste.
Et donc, non, en gros, c'est on dépose les enfants à l'école, on sait qu'on les récupère à 4h30. Bon, ben, on
c'est
a un temps
tôt.
Très
ouais, c'est
court.
Hyper tôt.
C'est hyper tôt.
C'est hyper court. Et dans ce temps, il faut faire tout ce qu'on a à faire et bien le faire. Et ben, en fait, du coup, mais tout est extrêmement timé pour que ce soit à la fois très satisfaisant pour moi,
ouais.
Sinon c'est pas drôle, et en même temps très productif. Et du coup, c'est assez génial à 4h30 de se dire « Ouais, ok. »
J'ai fait ma journée. J'ai fait tout le boulot.
Et t'as commencé à quelle heure? Enfin, les enfants...
8h45.
Les enfants sont à l'école.
Et c'est parti, la journée commence.
Et s'il y a à finir, ce sera après quand les enfants sont
Et la journée commence sur les chapeaux de roue.
C'est ça.
On démarre tout de suite.
Pouf, vision laser un peu.
Ouais, mais ça, c'est bien. Du coup, ça donne un... En fait, comme tout s'enchaîne hyper là-dessus, on enchaîne tout.
Évidemment qu'il y a eu des périodes de rodage, hein, mais là, aujourd'hui, on est bien rodé. C'est bon.
Et parce que de discuter avec des auditeurs ou des personnes qui se posent la question d'être, prenons, illustrateur, illustratrice, freelance, et qui se posent la question des enfants, il y a tout cet équilibre qui peut parfois faire peur. Moi, je sais que c'est venu bousculer des choses, mais... Comme tu disais, moi, c'est drôle parce que j'avais deux fois moins de temps, j'étais deux fois plus fatigué, j'étais deux fois plus efficace. Et je pense que je suis un bien meilleur illustrateur aujourd'hui en étant devenu papa, ce qui peut paraître étonnant. Après, en même temps, il y a des choses que ma vie de famille est importante pour moi. Il y a des choses que simplement je peux plus ou que je ne veux plus ou que pas pour le moment, simplement parce que j'ai une vie de famille et que je suis pas illimité non plus en énergie.
C'est
ouais, c'est
mais
ça.
C'est ce qu'on fait, mais c'est très bien.
Moi, il y a une chose, je voudrais rebondir. Il y a une chose, c'est sur la vie de famille avec les enfants. Il y a un truc, c'est que on est maître du temps par des contraintes d'école, de crèche, etc. Mais on n'est pas maître du temps parce que finalement, les enfants, c'est très évolutif.
Bah oui. Ouais, ouais.
Et du coup, en fait, c'est relancer tous les six... Nous, on a trouvé ça, c'était de relancer tous les 6 mois la donne. C'est-à-dire
et
que
encore,
les...
même pas tous les 6 mois, c'est même plus court que ça. Quoi.
Les changements de rythme étaient très rapides et c'était dur de se dire « Ah, ça y est, maintenant je sais, je vais prendre mon café à telle heure, je me mets à travailler à telle heure et là, j'ai 3 heures devant moi. » Non, ça n'arrivait jamais. Ouais. Et donc, du coup, c'était très compliqué de se dire de trouver en fait de bien rythmer, et une fois qu'on avait trouvé, hop, ça changeait parce que c'était le moment des dents, parce que c'était la croissance des 6 mois, etc. Et en fait, bah, il faut accepter, en fait, au lieu d'aller contre la vague, il faut accepter, se dire oui, bon, bah, c'est un temps donné où la donne change rapidement.
Donc
il
c'est
faut
plus souple, plus fluide, plus liquide,
voilà. Et puis bah, là, nous, par exemple, on est quand même à un moment donné où les choses s'apaisent un peu. On trouve un rythme qui nous correspond bien et qui correspond à la vie de famille et qui...
Puis il y a un autre truc qui vraiment nous a aidé, c'est que on le disait tout à l'heure, c'est que le duo, on l'a créé ensemble. Et ce que je veux
les
dire,
enfants
là,
aussi d'ailleurs.
les enfants aussi. Non, ce que je veux dire, c'est que on le connaît par cœur. C'est comme une excroissance de nous deux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas quelque chose d'extérieur à nous. C'est organique.
Donc on peut le changer facilement parce que.
On peut le changer facilement. Voilà, c'est ça.
Parce que c'est les contraintes qu'on a tous les deux ensemble.
Ouais.
Donc on les connaît. On est tous le soir ou même le matin. Si l'un habille, l'autre fait le biberon, etc. Mais c'est des choses qui font que, en fait, ce ne sont plus.
Franchement, on est.
C'est pas l'un qui subit et l'autre qui fait autre chose.
On est hyper rodé en logistique.
Ouais.
Mais ça, je pense que c'est l'expérience du duo, ça.
Ouais.
Si tu parles de
logistique. J'allais dire,
Tu parles de logistique de vie quotidienne, vie familiale. Hein.
C'est presque votre troisième enfant, le duo.
Ben non, c'est notre troisième personne. C'est,
bah surtout,
c'est,
ouais.
C'est, ah oui.
C'est nous deux.
Tu sais, quand on s'est quand on s'est installé ensemble, là je parle pas du duo, hein, je parle vraiment de notre vie personnelle. Mm-hmm. Léopoldine a des goûts très marqués.
Ouais.
J'ai des goûts très marqués. Mais on s'est foutu sur la gueule. T'as même pas idée. Pour savoir la couleur des murs, où est-ce qu'on allait accrocher tel truc, qui allait mettre quoi où, quelle serait la couleur du canapé. Mais c'était l'enfer, quoi. Et tout s'est résorbé le jour où on s'est dit qu'en fait, c'était ni la maison d'Albéric, ni la maison de Léo.
Ouais.
Mais notre maison.
C'est ça.
Et le duo, c'est pareil.
C'est, le duo, c'est beaucoup mieux passé en termes de...
C'est une entité hybride.
Ouais.
Et donc, il n'y a pas de lutte d'égo entre l'un ou l'autre. Et du coup, en fait, tout est absorbé dans cette énergie-là. Quoi.
Et on revient au 50-50.
Et on revient au 50-50. Qui est pas, mais qui est un 50-50, je précise, à partir du moment où tu considères la loi des grands nombres. L'équilibre universel. Hein. Toute côte que tu montes finit par descendre.
Mais continue sur cette histoire de grands nombres, parce que tu reviens plusieurs fois et ça m'intrigue.
Moi, je suis intimement persuadé que dans une vie, tout finit à terme par s'équilibrer.
Ouais.
D'accord. Donc, que quand on s'est mis ensemble avec Léo, puis en plus, on s'est mariés. Donc c'est un choix.
Ouais, bien sûr, ouais.
On a fait un pari sur un temps très, très long.
Bien sûr.
Qu'on espère le plus long possible.
Bien sûr.
Jusqu'à notre mort, quoi.
Ouais.
Tu vois,
ouais.
Donc, évidemment, à la fin de la journée, parfois, Léo a plus bossé que moi.
Mm-hmm.
Ou c'est l'inverse. Mais si tu mets ça sur 3 mois, la courbe commence à se lisser. Si tu mets sur 6 mois, elle se lisse encore plus. Et si tu mets ça sur 50 ans, l'équilibre est parfait.
Et quand tu veux dire qu'elle se lisse...
Ce que je veux dire, c'est que les différences, tu veux, entre l'un et l'autre sont de moins en moins fortes.
Ouais. Vous n'êtes pas là à compter, c'est
non,
ça
on
se
pas
fait.
De logique comptable.
Ouais.
Des fois, on s'est foutu sur la gueule.
C'est parce
quand
que...
on était dans
bien
cette
sûr.
Logique comptable.
Bien ouais, sûr. Ouais. L'amour ne compte pas.
Bah... Il est vigilant.
Il est vigilant. Ouais. Non, mais ouais, c'est vrai. Mais l'un n'exclut pas l'autre, quoi.
Bah
non,
mais
c'est d'être vigilant l'un à l'autre, justement, de nos niveaux d'énergie, de.
On l'a pas toujours fait. On l'a pas toujours aussi bien fait qu'on aurait dû le faire. Mais franchement, ça se passe bien. Hein.
Ça se passe très bien.
Ça se passe super bien.
Ouais.
Quels sont, si je peux poser la question, les moments de crise où vous avez pu tirer des leçons, tu sais, où, parce que j'entends que c'est une affaire qui tourne, etc. Et ça se voit et ça fait plaisir. Mais comme tu dis, voilà, il y a des moments où, par exemple, l'un travaille plus que l'autre et puis il faut rester vigilant, etc. Quels sont, parce que ça fait 10 ans que vous bossez quand même.
Équilibre universel, c'est la réponse.
Non, bah, mais... Monomaniaque. Non. Par exemple, pour moi, un des moments de crise, ça a été d'être...
En congé maternité.
En congé maternité, oui, exactement. Parce que je voyais Albéric partir dans son petit bureau et de moi rester avec notre fille. Donc, et en fait, je le prenais très mal parce que je le voyais créativement s'épanouir, travailler et en fait j'avais du mal à accepter de ne pas être présente sur le duo, en fait j'arrivais pas à lâcher le duo
et c'est vrai que moi à ce moment où je faisais tout j'avais aussi du mal à laisser Léo continuer à regarder comme elle le regardait avant.
Ah oui, parce que c'est moi qui fais tout, donc
c'était le moment où on était revenu à des petites guerres de territoire, tu vois, un peu bête. Puis Léopoldine est revenue et quand elle est revenue de son congé maternité, on a tout de suite eu un très gros client qu'elle a pris.
Et tout de suite, il a fallu être sérieux et carré, quoi.
Ah bah, elle a pas eu le choix, elle a bossé comme une malade.
Et j'ai adoré, parce que du coup, ça m'a reboosté, par exemple, ma confiance en moi, qui avait été un peu ternie, parce que du coup, je travaillais pas.
Ouais.
Et je me sentais pas forcément hyper...
On en avait discuté, hein, si tu veux. Moi, au début, j'étais là, voilà, elle a pas dessiné depuis 3 mois. Est-ce que ça va aller? C'est vraiment un énorme contrat. Et en fait, non, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et elle a fait un boulot merveilleux.
Ouais, tu t'es pas senti...
J'ai peut-être
galéré les 2 premiers jours.
Et puis, après, c'est comme le vélo, quoi. Ça
tu sais,
pas.
Nous, on revient de vacances et on n'a pas dessiné depuis des semaines. Les 2 premiers jours, c'est compliqué. Hein.
Ah, mais alors, moi, j'ai ça aussi. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure en off, justement, du fait que voilà, tu me dis, on part en vacances, on dessine pas pendant 2 mois. Est-ce que vous n'avez pas un rapport culpabilisé, tu sais, au fait que vous dessinez pas en dehors de votre travail? Tu sais, les personnes qui dessinent constamment,
moi, ce mot que je ne connais pas.
Mais c'est beau si tu ne connais pas ce mot.
Moi, c'est assez étranger.
Tu sais, parce que moi, je peux partir en vacances aussi et ne pas dessiner. Et j'aime l'illustration, mais je peux très bien ne pas dessiner.
Je ne dessine pas quand je suis en vacances.
Voilà.
C'est notre métier, on a parlé tout à l'heure.
Oui, oui.
On n'est pas des auteurs.
En fait, il y a aussi une chose, c'est que on se nourrit de beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que si tu ne dessines pas, tu lis.
Si on ne dessine pas, on lit pas, on
regarde des images, on lit des bouquins d'art, de photos. Moi, je suis pas une grande fan d'expo, donc C'est comme ça.
Mais par contre, mais les par catalogues contre, d'expo, ouais.
Les, voilà, et nous, on est sur.
Le papier, le livre. Sur,
mais tu regarderas, papier, si tu pourras faire un tour dans notre maison voilà. Ou dans nos bureaux après. Tu vois un bouquin d'illustration, là, à portée de main?
Ouais, non. Pas, bah, là, il y a un livre jeunesse.
On l'a pas rangé ce matin.
Ouais, ça compte pas.
C'est un livre des enfants, enfin, si tu veux.
Mais en fait, mais on se nourrit beaucoup d'autres choses. Et en fait, c'est pas des. Enfin, c'est. On n'a pas de culpabilité à ne pas dessiner. Okay. Parce qu'en fait.
Parce qu'on s'enrichit
d'autres choses.
Plein d'autres ouais. choses.
Et, ouais. c'est autorisé et c'est très bien. Enfin, je veux dire, je pense
même,
que beaucoup de gens.
Pas, c'est même pas autorisé. Il n'y a pas.
Oui.
Ni autorisé, ni
oui.
rien. C'est
voilà.
comme ça. C'est tout.
Non, mais je pense que dans l'esprit de beaucoup de personnes qui se disent s'ils veulent percer dans un certain milieu, il faut qu'ils. Pour non l'illustration, il faut qu'il bouffe respiration,
alors,
il faut qu'il respire illustration.
Pas être étranger au milieu dans lequel tu travailles.
Ouais.
Donc, tu vois, on parlait tout à l'heure de bien faire son métier.
Ouais.
Si on te demande de faire un magazine et que tu dessines une revue, bah tu t'es gouré. T'as pas répondu à la commande.
Ouais. Donc,
évidemment, il faut pas être étranger au milieu pour lequel tu travailles. Évidemment, faut savoir ce qui se passe. Tu vois. Mais finalement, est-ce que tu veux un illustrateur qui parle illustration toute sa vie?
Mmh.
Ou est-ce que tu veux, je parle du client, quelqu'un avec qui tu vas pouvoir échanger et parler d'autres choses, par
oui.
exemple la toile,
la vie, ouais, c'est ça. Ouais, absolument. Ouais.
Nous, par exemple, je pense entre autres à une conversation très agréable qu'on a eue avec le directeur marketing de Veuve Clicquot pour un brief. On n'a pas parlé d'illustration.
Oui.
On a parlé de littérature, d'art, de philosophie, et le courant est passé. Si on lui avait parlé de notre tambour et de notre petite cuisine, je sais pas ce que ça lui aurait fait. Hein.
Ouais.
Tu vois? Je sais pas si ça peut être bien perçu, ce que je veux dire, mais notre vie est plus riche que l'illustration.
Ouais. Hmm. Pourquoi ce serait mal perçu?
Non, parce que ça pourrait faire un petit peu cracher dans la soupe, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais notre vie non, est plus riche que l'illustration.
Plus large. Plus...
Après, je pense qu'il y a plusieurs types de personnes. C'est-à-dire qu'il y en a où, pour eux, visuellement, ça passe à travers l'illustration.
Ouais.
Moi, c'est peut-être plus de l'objet.
C'est-à-dire
c'est, bah, je sais pas.
C'est, ouais, c'est... Il y a vraiment une sensibilité à l'objet.
À l'objet.
Ouais. Physique. Ouais. Ouais.
Et beaucoup. Enfin, et du coup, en fait, c'est chacun doit répondre. Enfin, doit trouver en fait comment se nourrir. Et...
Oui, puis on n'est pas des monomaniaques, tu vois. Moi, j'ai une passion pour les illustrateurs ou les dessinateurs monomaniaques. Par exemple, j'adore Chris Ware.
Ah oui, 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 Chris Ware, ouais.
Fascination pour Chris Ware.
Ouais, c'est fou, c'est un fou furieux.
Je trouve ça complètement dingue.
Dans le bon sens du terme.
Mon cerveau n'est pas comme ça et je crois que celui de Léo n'est pas non plus.
Ouais, moi non plus.
J'aime collectionner.
On n'a pas ce cerveau-là.
Ouais, ouais.
Pas, je te dis, c'est.
Ouais, moi, je sais que je suis attiré souvent visuellement par quelque chose de. Enfin, je suis autant attiré par quelque chose de très synthétique, mais je suis. Totalement admiratif des personnes qui font des choses totalement chaotiques, mais moi je sais pas le faire. Enfin,
cet artiste maudit qui ne pense qu'à une chose du matin jusqu'au soir, si tu veux, j'aurais adoré, mais bon, c'est pas le cas.
Ouais.
Je suis un artisan heureux.
C'est ça. Mais tu vois, par exemple, on vous parlait de vous nourrir d'autres choses qu'illustration. Moi, je sais que notamment ce podcast, c'est me nourrir des conversations, c'est des rencontres, c'est ça qui me fait avancer et que chacun d'entre nous, en fait, on est différent, on a des ADN différents, des histoires différentes et de trouver ces différentes avenues où on se nourrit. Ouais.
Le moment où tu es juste bien accordé, tu vois.
Ça, c'est important.
Le moment où tu es bien accordé.
La justesse, c'est un sujet.
On revient au travail, au fait de dessiner tout le temps. Moi, j'ai un ami qui est photographe et il disait toujours, quand on commençait à bosser ensemble, à l'époque où j'étais DA, hein, il disait toujours, oh là là, attends, ça commence à sentir la sueur, ce qu'on fait. Quoi.
Ah ouais.
Ah, mauvais signe, quand même. Vraiment, au début, je comprenais pas du tout
ouais,
ce qu'il disait.
Mais je pense à ce que tu veux dire, ouais.
Et aujourd'hui, avec l'OB, je pense qu'on fait pas de boulot comme ça. On fait pas de boulot qui sente la sueur. Et les moments où on sent que ça commence à ripper un petit peu, tu vois, à se crisper le boulot.
On s'arrête.
C'est ça.
On se balader. Puis on revient et puis on se rappelle qu'en fait qu'on n'est jamais quand même en train de dessiner autre chose que des petits bonshommes.
C'est vrai.
Tout va bien dans le meilleur des mondes.
Ouais, ouais. Oui, on se prend la tête. Parfois, on peut s'entêter, etc.
Moi, tu m'avais appris ça à mes débuts. Tu m'avais dit
on arrête.
Si tu patauges, tu t'arrêtes, tu sors, tu vas faire un tour et tu reviendras avec un œil neuf. Et pas essayer de
fais ta
forcer.
Promenade. Moi, j'ai une petite promenade rituelle que je fais quasiment tous les jours avec les chiens. Ça me prend 45 minutes. Je reviens, mon cerveau, il est frais.
Ouais, totalement, ouais.
Et tu n'es pas monomaniaque.
Non, après, je suis monomaniaque, mais sur d'autres trucs.
Mais c'est dur, hein, de se soustraire, de repérer ce moment en disant là, tu patauges, lâche.
Et en fait, c'est assez facile.
quand tu le repères, quand tu te connais et que...
C'est difficile au début, mais une fois que tu l'as repéré, après c'est facile. En fait, c'est pas compliqué. C'est le moment où t'es devant ta feuille ou ton ordi et que ça fait une heure et demie.
Exactement.
Et que t'as modifié 15 fois la même chose.
Ouais. Oui, sauf que t'as encore envie de bien faire. Moi, par exemple, j'ai du mal à le faire et c'est généralement toi qui vas venir me dire « Arrête ». En fait, c'est le regard de l'autre aussi. Enfin, moi, c'est là où je trouve que c'est génial d'être à deux. C'est que t'as tout le temps un avis extérieur qui vient...
Mais ça, c'est parce que Léopoldine est excessivement consciencieuse.
Oui.
C'est vrai.
Moi, je suis très pointilleuse.
Ouais.
Très, très consciencieuse.
Et
mais c'est une immense qualité dans le duo.
Ouais.
Mais ça peut être aussi une grande perte de temps. Mais...
C'est-à-dire
j'adore. Je peux passer des heures à faire des points pour faire de la dentelle. C'est...
Ouais. Est-ce que c'est un peu méditatif quand tu le fais
En fait, il y a quelque chose de très jouissif. Je sais pas trop comment...
Tu sais, à un moment donné, je sais plus exactement quel boulot c'était, je sais plus trop, bref. Et notre agent nous a dit, vraiment, on n'était pas encore content de ce qu'on avait fait.
Ah oui, si.
C'était pas... Je sais plus ce que c'était.
Je sais plus non plus. Mais...
C'était pas à la hauteur de ce qu'on avait imaginé quand on avait refait, tu vois. On n'était pas content. Et il fallait rendre le soir, quoi. Et on a dit, non, c'est pas possible. Tu deals avec le client. Et il nous a dit, non, stop, c'est fini.
Et en fait, c'était très bien.
Il faut rendre
c'est
demain.
Juste qu'on avait une autre vision de la chose.
Et à un moment donné, en fait, les modifications qu'on aurait apportées, le client ne les aurait jamais vues. Parce que finalement,
juste... Ah oui, c'est juste pour vous, bien sûr. Ouais.
L'essentiel était déjà sorti, quoi. Était déjà fait. Et ça, c'est Morgane, donc notre agent de la suite, nous a vraiment appris ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut rendre, livrer,
lâcher.
Il faut l'arrêter.
Lâcher prise.
Il faut l'arrêter.
Ouais. Mais ça m'intéresse ce côté consciencieux parce que moi je pense que je suis parfois maladivement
méticuleux.
Ouais, le côté ça se voit peut-être pas forcément dans mes illustrations, mais j'ai vraiment ce côté de base que je désapprends, ce côté vraiment bon élève trop propre.
C'est-à-dire bien coiffé mais avec une petite houppette.
Ouais, exactement. Ouais. C'est une autre histoire ça. Il y avait plus d'eau chaude ce matin, comme ça vous saurez tout à la maison. Et que en fait justement ce moment de maintenant il faut lâcher. Moi, je pense que devenir papa, ça m'a justement aidé parce que j'avais plus le temps de, en fait, c'était genre, t'as pas le temps, tu envoies le truc et boum. Et en fait, j'ai jamais été plus heureux que quand j'étais plus fatigué et plus efficace et moins justement dans le... Parce que moi, contrairement, mon côté méticuleux n'est pas jouissif pour moi. C'est presque une déformation... personnel ou dans mon éducation quoi que ce soit de que en fait c'est beaucoup plus jouissif quand c'est beaucoup plus spontané pour moi tu vois quand je fais tu vois le podcast en fait pour moi c'est presque me forcer tu vois on a commencé la conversation je sais pas où ça allait aller et c'est ça en fait qui est beau alors que moi j'ai tendance à bien préparer les choses tu vois
alors tu vois ça me fait penser complètement à autre chose mais donc, nous notre site d'illustration il est vectoriel donc c'est sous Illustrator donc c'est quand même un logiciel où tu peux paramétrer l'équilibre des choses
à l'infini
donc en termes de précision ça se pose quoi et bien par moment aussi moi c'est une petite lassitude avec ça aussi
bah, j'imagine
tu vois petite lassitude.
Comment tu y...
Bah, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas encore la réponse.
Okay.
J'ai pas encore la réponse parce que c'est un outil qu'on maîtrise tellement, que c'est devenu très fluide. Et aussi parce que j'ai des satisfactions, alors pas coupables, mais tout comme, si tu veux, quand je suis sur notre fichier et que je vois que tout est parfaitement aligné, je suis là, genre, ouh! c'est tout beau.
Ouais.
Mais effectivement, il y a, faut aussi se méfier parfois, si tu veux, de cette perfection, de cette précision.
Ah oui.
Moi, j'ai tendance à être comme ça.
Je crois que c'est. Alors, j'ai plus la citation exacte, mais je pourrais la retrouver à l'occasion. Mais c'est Stendhal qui parlait d'un voyage dans ses Chroniques d'Italie, je crois, qui dit que la mauvaise littérature, c'est le détail.
Ah oui.
Et en substance, hein, c'est ça l'idée.
Oui, oui, oui.
Je pense qu'il y a une quinzaine de mots entre les deux, mais en gros, c'est ça. Et c'est intéressant aussi.
Ouais.
Mais pour nous aussi, c'est très intéressant. C'est... Parfois, il faut aussi trancher dans la masse.
Et vous
Il faut aller plus vite. Bah, on y arrive quand justement on se rapproche du rond, du carré, du triangle, de ces formes pures.
C'est là où il y a deux choses. C'est-à-dire que notre travail géométrique nous permet d'aller très loin dans le détail et en même temps de travailler dans la masse avec des formes tellement simples. Et en même temps, c'est le fait d'être un duo et de bosser ensemble qu'on a perpétuellement un échange, c'est un ping-pong l'un avec l'autre d'idées, de concepts, de mise en place, etc. Et du coup, en fait, nos illustrations, bah, c'est de trouver le juste milieu entre ce que l'un et l'autre veut représenter, comment le représenter,
le client nous demande de représenter.
Et ce que les formes géométriques nous permettent, et ce que nous avons institué en tant que règle. Et donc, c'est là où c'est génial, c'est qu'il y a tellement de contraintes, et d'arriver à sortir quelque chose qui ressemble à John Lennon, à une architecture d'un musée hyper connu, etc. À tout ça, en fait, c'est génial d'arriver avec
un énorme challenge qu'on a eu. Ce que Léo est en train de raconter, ça m'y fait penser. C'est on nous a demandé de multiples reprises de dessiner ou des villas d'architectes, je pensais à ça dont tu faisais mention, ou des objets de designers, par exemple des chaises ou des lampes. C'est-à-dire dessinés par les meilleurs des designers du monde.
Ouais, et vous les re-représentez dans votre style.
Il faut les re-représenter. Et là, évidemment, tu peux pas mettre sur une maison toutes les fenêtres. Évidemment, tu peux pas représenter toutes les vis, les attaches, les machins. Et il faut, ça c'est passionnant, c'est pas l'objet réel, bien entendu. Mais retrouver l'essence même du geste, tu vois.
Ouais.
Par exemple, sur une chaise, c'est la courbe de l'assise, tu vois. Ou la rigueur angulaire, s'il y a ça. C'est passionnant de faire ça.
Et vous rentrez dans l'esprit de génie du design, quoi.
C'est passionnant.
Mais c'est de se rendre compte que rien n'est là par hasard, que visuellement, si on change la courbe, c'est plus la même. Et cependant, il faut y intégrer notre style, et c'est extrêmement riche comme manière de travailler.
C'est quoi pour vous la justesse?
Ouh. Je dirais, comme je dirais à ma fille, pas de justice.
What?
Ça n'a rien à voir avec le... la justesse, tu parles quoi? La justesse du trait?
La justesse.
La justesse de l'illustration quand elle est finie?
La justesse dans votre pratique. Mais dans votre vie et votre pratique.
Moi, je pense que c'est l'adéquation.
Ouais.
C'est quand tu fais une chose pour ce pourquoi elle a été faite.
Ouais.
Ah non, je ne pourrais pas développer.
la justesse, non, pour moi, c'est quand on est tous les deux d'accord, en fait. Enfin, généralement...
Quand on sent qu'on a bien... Ouais, c'est ça.
En fait, quelle que soit la chose qu'on fait, on l'a fait ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit dans le travail, dans l'emploi du temps, dans la manière de s'occuper des enfants, en fait, on se concerte avant, on prend une décision commune, et après, on la met en pratique.
Ouais.
Quand on schématise, et en fait, on fait tout, on en a parlé avant, on s'est mis d'accord, on arrive à faire la chose, ben, en fait, elle est juste parce que c'est vraiment ce qu'on a décidé ensemble.
La justesse, c'est l'équilibre.
Ouais. Tu vois. C'est l'ordre et le désordre.
Non, c'est surtout l'ordre.
Non, c'est l'ordre.
C'est l'ordre. Ouais.
Non, du coup, on va paraître très.
Non,
mais c'est en adéquation avec votre style aussi, géométrique, les choses sont à leur place, etc.
Les choses sont à leur place.
Ouais.
Et ça, c'est vrai que je crois que c'est quelque chose qu'on fait bien hein, dans notre vie quotidienne, notre métier.
Et l'imprévu?
Ah ben, l'imprévu, c'est tous les jours.
Ouais.
Non, mais c'est tous les jours. Mais là, la question que tu poses, c'est comme si tu demandais à un jazzman comment il improvise.
Ouais.
Il improvise sur une grille.
Oui.
Tu vois? Et c'est comme en design, quand tu fais une maquette, tu improvises, mais il y a une grille en dessous.
Ouais.
Ben, nous, on fait la même chose.
Ouais. Connaître votre grille suffisamment bien pour pouvoir improviser dessus. Voilà.
Ce qui me fait penser que le sanglier que nous avons mangé au déjeuner était posé sur une grille.
Ouais.
Voilà.
Et donc?
Rien du tout. Non.
Non, l'imprévu, il y en a tout le temps.
L'imprévu, il y en a tout le temps, mais à partir du moment où le cadre est structuré, c'est bon.
Oui.
Tu sais que les grands poètes romantiques du 19e siècle, c'est, je pense entre autres à Lamartine, par exemple, ou à Victor Hugo, c'est eux qui avaient les structures, et là je parle d'une composition, hein, les plus complexes et les plus élaborées, quoi.
Oui.
Mais c'est aussi parce que si jamais quand tu as l'âme fragile et l'âme sensible qui a tendance à vouloir
à déborder.
À déborder et à se porter sur plein de choses, si tu la structures pas,
c'est ça.
Bon, tu vas jamais rien faire de ta vie.
Ouais.
Et tu vois, Hemingway, il disait, je suis désolé, hein, c'est beaucoup de citations littéraires, il disait, il faut savoir observer et apprendre à raconter.
Ouais.
C'était son problème. Donc observer, c'est facile quand tu as une âme d'artiste, mais après le dire. Après le mettre en place, c'est là où il faut remettre la structure.
Ouais. c'est définir le cadre dans lequel tu vas jouer.
Ouais. Et puis si tu en sors, tu saches quand même où il est. Ouais. En fait, c'est
il y a ça, et puis je pense que enfin, je reviens sur les artistes et tout. Les gens sont quand même toujours un petit peu trop attachés à la figure de l'artiste génial, tu vois. Je pense à Rimbaud, à Picasso.
Une sorte de génie.
Mais le génie immanent, comme ça, mais c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Mais c'est excessivement rare.
Ouais.
C'est excessivement rare.
Ouais, ouais. C'est l'exception qui confirme pas la règle.
Et c'est non maîtrisable, quoi. Je veux dire, ce sont des anges qui sont descendus sur Terre. On peut rien y faire. Et tous les autres, nous tous, ce qu'on peut faire, c'est bosser.
Ouais.
C'est le travail.
C'est le travail, ouais.
Et travailler, ça veut pas forcément dire souffrir, hein.
Non.
Je crois qu'on a essayé de te le dire, hein.
Et travailler pour moi, c'était, enfin, j'ai toujours eu ce petit côté très romantique et à me dire que je pouvais vivre 3 jours à travailler sans dormir et que après je me reposerais. Et en fait, non, en fait, je suis efficace, je suis, et je pense que c'est comme ça, c'est quand, en fait, tout est ritualisé, quand les choses sont, enfin, pour nous, en tout cas, c'est ce qui marche, c'est de vraiment créer une grille très forte sur laquelle se poser et pour qu'en fait les choses aillent rapidement, efficacement et soient bien faites.
Ouais.
Tu vois, Léo, elle est jamais aussi heureuse en fin de journée que quand elle dit j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Non mais c'est vrai.
Je dis ça fait un bien fou.
Ouais, ça fait un bien fou. Genre et c'est vrai que par exemple quand t'as fini une belle ilu, t'as une satisfaction du travail bien fait.
Ouais,
quoi.
Ouais.
Puis tu la regardes. Moi, j'imagine que je suis comme un ébéniste. Parfois, je regarde les ilus, puis avant de les... Très souvent, en fait, c'est pas bien ce que je veux dire, mais on finit avant la deadline, puis on garde un peu les trucs, parce que si on rentre trop vite aux clients, ils sont pas contents.
Mais... Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire.
Mais, et on les regarde, tu vois. Après, on peut apporter une subtile modification, notamment sur la couleur, ça nous arrive très souvent.
Non, ou des ombrés pour découper.
On va creuser
2-3
trucs, mais il y a aussi un moment qui est très agréable, c'est le moment où, en fait, tu sais que le travail est fini. Tu le regardes, et puis en fait, il se charge. Je sais pas si tu connais le peintre Balthus.
Non.
Peintre franco-polonais, Balthazar Klossowski de Rolla. Eh bien, dit Balthus. Balthus, lui, quand il avait fini ses toiles, ses immenses toiles, il les gardait, il les mettait dans son atelier, puis parfois il les gardait 5-10 ans. Il disait qu'il les chargeait, et ensuite il les mettait en vente.
Et il les chargeait...
Avec son âme, avec son regard, je sais pas trop quoi, il charge, tu vois. C'est comme on charge une batterie, tu vois.
Ah oui.
Il densifie, quoi.
Ouais. Et toi, tu fais pareil avec tes illustrations avant de les envoyer.
Bon, évidemment, on peut pas comparer, c'est pas. Mais parfois, il y a de ça. Par exemple, les bouquins qu'on a fait pour Gallimard Jeunesse, si tu veux, où on doit toujours produire, par exemple, c'est 40 illustrations.
Ah oui.
C'est beaucoup quand même.
Bah oui, c'est clair.
Tu vois, parfois, c'est beaucoup. Là, on va faire un truc sur la mythologie pour un immense poster. Je crois que là, c'est 60 illustrations. 60, 65, quelque chose comme ça.
Mm-hmm.
Donc, à un moment donné, si tu veux, il y a quelque chose du coureur de fond, hein. Mais ça se charge, je sais pas comment le dire, quoi. C'est très agréable. Alors évidemment, je mets pas ça à la hauteur des toiles de Balthus ou quoi que ce soit, c'est pas comparable.
Hein. Ouais.
Mais c'est bien aussi quand même de donner un peu de densité à quelque chose, surtout nous qui avons un style hyper pop, si tu veux.
Non, puis il y a une attente, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a bien fini, regardez, quand on est content, on sait qu'on va l'envoyer. En fait, on la garde encore un peu pour nous.
Ouais, bien sûr.
Et puis... On l'envoie et on a eu le temps de digérer. C'était fait, c'était bien, on est content, on le reçoit et c'est fini et c'est envoyé. Et il y a cette espèce de petit processus de c'est pas laisser partir, mais c'est un.
Tu sais, il y a des boulots parfois qui quand même te demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie.
Ou d'énergie, ouais, d'énergie. Et du coup, ben par exemple pour Gallimard, les rois que j'avais fait en étant enceinte de notre petit, c'était prenant parce que j'ai adoré faire ces personnages, les détails, trouver les éléments qui correspondraient et qui permettraient de les reconnaître rapidement.
Ouais.
Puis parfois il y a des élus que tu boucles en 2 jours, parfois même moins.
Ouais.
Et puis parfois il y en a comme le projet dont Léo vient de te parler ou d'autres projets qui vont carrément devenir des périodes de ta vie, quoi.
Ah, c'est associé.
Qui vont durer 3 mois, tu vois, et quand tu les as finis, waouh, il y a quand même plus vite, il se crée, tu dis, voilà, 3 mois de ma vie qui ont été consacrés à ça, c'est énorme. Et c'est là, autre conseil pour les illustrateurs, non pas jeunesse, mais les jeunes, c'est, vous vous rendez compte que vous allez consacrer votre vie à quelque chose. Posez-vous la question. Est-ce que c'est bien à ça que vous voulez consacrer votre vie? Ça, je pense que c'est quand même une question fondamentale.
Ouais.
Fondamentale.
Et vous?
Et moi, je te le dis, on en a parlé off tout à l'heure, je pense que je consacrerai pas toute ma vie à l'illustration. Parce que ça répond aujourd'hui à des choses que j'ai envie de faire, que j'ai toujours envie de faire. Mmh. Mais je sens bien que je ferai pas ça toute ma vie.
C'était clair pour toi, dès le début, quand tu t'es lancé?
Non, pas du tout. Quand on a commencé, il y avait un effet, de mode, un peu un effet d'opportunité, si on peut le dire comme ça. Voilà, ça s'est fait, quoi.
Ouais.
Et puis, parfois, faut prendre la balle au bon, hein.
Bien sûr. Ouais.
Donc, ça s'est fait, mais, tu sais,
il faut pas se laisser emporter. Enfin, en fait,
faut pas non plus user la corde.
Oui, oui, oui.
Je sais pas combien de temps ça va durer. Ça durera le temps que ça durera. Voilà.
En fait,
a priori, je pense que ce sera pas toute ma vie.
C'est ce que tu disais aussi en off, c'est-à-dire qu'on a des cartes en main. Je vais te laisser parce que tu l'expliques bien mieux, mais en gros, on est doté.
Non, je sais pas.
Cette carte en main pour.
On a une donne, quoi.
Voilà.
Ouais. On a une donne. Et cette donne-là, elle est. Déjà, parfois, on a du mal à lire les cartes.
Oui, ouais.
On sait même pas les identifier.
Ouais.
C'est évidemment, c'est pas pique, cœur, carreau, trèfle. Sinon, ce serait trop facile.
Ouais.
On est plus de l'art dans l'art du tarot, quoi.
C'est le moi.
On est plus dans l'art de cœur du tarot, avec des talents, là. Moi, je suis très sensible à cette histoire des talents qu'il faut bien user.
Ouais.
Enfin, dont il faut bien user.
Pardon. Ouais.
Et en fait, il faut faire attention à ne pas, comme tu dis, user la corde, c'est-à-dire de.
À un moment donné, je pense qu'on aura dit tout ce qu'on aura à dire.
Ouais, et c'est important de savoir repérer son moment.
Et à un moment donné, on aura d'autres choses à dire mieux ailleurs.
Voilà. Et si tu disais, est-ce que vous allez évoluer, etc. Et en fait, oui et non. Enfin, oui, bien sûr, on va évoluer, mais peut-être pas dans l'illustration, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas de vendre, etc. C'est de correspondre vraiment à ce qu'on veut dire
et
ce qu'on est. Et en fait, c'est là la justesse du et ça répond à la justesse.
Ouais, totalement. Ouais, c'est magnifique.
Ça répond à la justesse. Ouais. Du coup, il faut pas chercher un style, il faut pas essayer de correspondre à quelque chose qu'on n'est pas. En fait, il faut que ça réponde à un besoin essentiel et crucial. Il faut que on ait envie de se lever le matin pour ça. Et tant que c'est là, tout ça.
Ouais.
T'as les doués, hein, parce que
c'est beau, la boucle. Ouais, c'est ça.
Et tant que c'est là, en fait, il faut y aller à fond, il faut se donner tous les moyens, il faut le vivre pleinement. Mais le moment où on sent que ça part, qu'il n'y a plus de motivation, si on a encore des choses à dire, il faut relancer les dés, et il faut rejouer ses cartes. Et si on a plus grand chose à dire, il faut carrément,
Se réinventer
et
ouais, puis en plus je pense qu'on est aujourd'hui dans une époque comme ça, hein, où l'agilité est quand même une valeur fondamentale, hein.
Mmh.
C'est bien, hein, ça a des inconvénients et des avantages, hein. Par exemple, nous on a pas mal bossé avec des startups, je peux te dire que l'agilité on leur a bien carré au fond de la gorge, hein. Parce que c'est n'importe quoi, hein. Ça veut surtout dire que ils font ce qu'ils veulent et que nous on est corvéables.
Ouais. Horrible.
Mais l'agilité, c'est quand même bien. Ça a beaucoup de valeur. Ça a beaucoup de. Quand tu te dis que en fait, voilà, parfois faut laisser faire et puis parfois faut juste changer. Et tu le sens en fait.
Ouais.
Tu sais, quand les petits enfants dans leur livre, on leur dit il faut écouter son cœur. Et ben c'est pas des blagues.
Mais oui.
Eh ben c'est pas des blagues.
Mais oui.
En vrai, je le dis très très sérieusement.
Ouais.
Il faut écouter son cœur. Moi, j'ai un radar à l'intérieur de moi qui fonctionne excessivement bien.
Ouais.
Trop.
Jusqu'à présent.
C'est ton intuition.
Oui, appelle ça comme tu veux. Ouais. Oui, c'est ça. Mais vraiment, c'est.
Ta petite voix intérieure.
Je te jure. Quand parfois, il y a des trucs.
Tu veux pas faire quelque chose.
C'est pas que je veux pas. C'est non, parfois je le sens. Il faut pas. C'est terrible. Il faut pas le faire.
Ouais, t'as la boule au ventre.
Exactement.
Ouais, pareil.
Ventre,
ouais. Ouais.
C'est terrible, quoi. Terrible.
Oui,
il m'est arrivé de m'être engagé sur des trucs, d'avoir cette boule dans le ventre. Alors, généralement, pas trop engagé dans le processus, hein, parce que sinon, je fais bien mon métier, je vais jusqu'au bout et je réponds. Mais
oui, oui.
Si c'est le tout début, je préfère rappeler, dire écoutez, je suis désolé, je me suis trompé, stop, on arrête.
Ah ouais? Et
ouais.
Ça t'est arrivé?
Ça m'est arrivé très récemment. Ça m'est arrivé.
Et ça se passe comment?
Bah, il faut assurer ses arrières, c'est-à-dire qu'il faut trouver quelqu'un pour te remplacer en avant.
Ouais.
Tu peux pas juste lâcher tes clients, c'est pas possible.
Ouais.
Tu vois?
Ouais.
Mais parfois, ça colle pas.
Moi, ce que j'entends en filigrane, c'est quelque part, c'est de suivre quelque chose de vivant. Il faut que ce soit vivant.
Il faut que ce soit vivant. Et puis, même si je réponds pas à la question que tu as posée tout à l'heure, il faut aussi que ce soit un peu juste. C'est-à-dire que, encore une fois, en adéquation, c'est,
ouais.
Même si c'est très,
mais
c'est vraiment son cœur, quoi.
Ouais, mais c'est ça.
En fait, on le sait.
Mais c'est
terriblement.
Mais tu parles de juste, il faut que ce soit juste. Mais c'est aussi parce que si tu sais que tu vas pas bien faire le boulot, parce que, en fait, tu n'as peut-être pas les compétences ou quoi que ce soit, et ben, dans ce cas, en fait, il faut être plus malin. Il faut dire, en fait, non, ça, c'est, je sais que je ne vais pas savoir bien le
ouais.
faire.
Ouais, c'est être honnête.
Et en fait, ça, ouais, voilà, exactement, c'est être honnête. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup, en démarrant, t'as envie de tout prendre parce que, bah, déjà, il faut manger.
Ouais, ouais, ouais. Tout prouver.
Et
ouais,
t'as envie, ouais, et t'as envie d'être bon sur tout parce que tu penses que tu es bon sur tout. Et en fait, petit
à petit.
T'as
envie d'être bon sur tout.
Et t'as envie d'être bon sur tout. Et oui. Et petit à petit, tu vas trouver ton style, même si j'ai bien compris qu'il fallait pas parler de style.
Ouais.
et tu vas trouver ce pourquoi tu es bon. Et.
Mais c'est une question de souffle. Tu parles de style, on peut dire le souffle.
De souffle, très bien. Ça, et ben, à ce moment-là, le jour où tu trouves ton souffle, eh ben, il faut se lancer dedans, mais si on a envie de répondre à d'autres choses si des clients nous appellent pour autre chose et qu'on sait qu'on va pas bien le faire, eh ben, moi, je pense qu'il faut refuser.
Il faut pas le faire.
Il faut pas le faire, ouais. Parce que il faut faire ce pourquoi on est très bon.
Tu sais pourquoi le duo, on l'a fait, on aime ça et on l'aime toujours? Parce qu'en fait, on pourrait faire ça toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Oui, c'est votre souffle.
C'est une bobine qu'on peut dérouler à l'infini, quoi.
Ouais, c'est une alchimie que vous avez réalisée à deux.
C'est pour ça qu'on fait ça depuis 10 ans.
Ouais.
Ça, c'est parce qu'on peut le dérouler à l'infini.
Ouais.
Que ce vocabulaire s'enrichit, évidemment, au fur et à mesure. On en parlait. On parlait des petites modifications. Bien sûr qu'il y a des modifications. Bien entendu. Heureusement, d'ailleurs. Mais finalement, c'est un truc, c'est une partie qu'on peut rejouer en permanence, quoi.
Ouais, c'est votre propre magie.
Voilà.
Merveilleux. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là.
Super.
Merci beaucoup Albéric, merci beaucoup
Jérémy.
Léopoldine, c'était top.
C'était super, merci beaucoup.
And 4. C'était ma discussion avec Albéric et Léopoldine. Merci à vous pour votre temps et votre chaleureux accueil. J'ai passé un excellent moment en votre compagnie. Avec une petite mention spéciale pour le crépitement du feu que l'on peut entendre durant cet enregistrement. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à le leur dire directement en les suivant sur Instagram @hello_le_duo, en leur laissant un petit message ou en visitant leur portfolio sur le site de l'agence La Suite. Vous pouvez aussi partager cet épisode avec un ou une amie et me laisser quelques étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcasts. Ça fait toujours plaisir de vous lire et cela permet à Sens Créatif de monter dans les classements. Pour ne plus jamais louper un épisode, abonnez-vous sur vos applications de podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux ou rejoignez ma newsletter. C'est là que je partage mes petites réflexions du moment, des vidéos inspirationnelles, de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. Pour vous inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur senscreatif.fr. Vous retrouverez le lien en haut à gauche ou, comme d'habitude, dans les notes de cet épisode.
Salut, je m'appelle Camille Eplin, je suis illustratrice et je fais partie du Patate Club, c'est-à-dire que je soutiens financièrement Jérémy sur Patreon parce que son podcast m'apporte énormément. C'est devenu mon petit rituel depuis 2 ans. Je bosse en écoutant Sens Créatif et chaque fois j'apprends quelque chose. Alors comme on peut le faire pour un magazine, je trouvais ça normal de m'y abonner pour le soutenir et aussi avoir la sensation de faire partie de l'aventure. Les participations débutent à 2 € par épisode. Et en plus, Jérémy nous gâte, car maintenant, il y a le nouveau Patate Club Podcast. Un podcast bimensuel et exclusivement accessible au Patreon, enregistré en duo avec Laurent Bazar. Tous les deux, ils débriefent du dernier épisode de Sens Créatif et des sujets abordés sur le Discord et les coulisses du podcast. Bref, une belle popote. Sens Créatif, c'est aussi une grande famille de patates créatives, avec des âges et expériences bien différentes. On s'encourage, on s'inspire, on échange les uns avec les autres, notamment sur la plateforme Discord, qui est gratuite et ouverte à tous. Et si tu fais partie des Patreons, les portes du Discord sont encore bien plus grandes, mais ça, je te laisse le découvrir. Pour rejoindre le Patate Club ou le Discord, retrouve les liens dans les notes de cet épisode.
Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuyMusique ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Et si vous êtes toujours là, j'en profite rapidos pour remercier tous les auditeurs du podcast qui ont déjà visionné les 4 premières émissions de M'as-tu vu, une émission pour apprendre à faire sa promo comme les pros et réalisée en partenariat avec Adobe, le laptop et Sens Créatif. Et la semaine prochaine, je recevrai Cyril Abad, un photographe dont j'admire le travail depuis quelques temps et qui vient de publier un superbe livre aux éditions Pyramide intitulé In God We Trust. Cyril viendra nous parler de son travail, de storytelling et de création de portfolio. Alors si le sujet vous intéresse, inscrivez-vous et rejoignez-nous le mercredi 12 mai à 11h30. C'est gratuit et on fait ça avec le cœur. On n'attend plus que vous. Allez, cette fois et pour de vrai, je me casse et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao.
Sable.
Tu vas aller où ?
Au bac à sable.
Ah bon ? Est-ce que tu sais dire bienvenue sur Sens Créatif ?
Non.
Non ?
Est-ce que tu sais dire bienvenue ?
Non. Mais... Bah non.
Mets pas ta bouche dessus.
Quoi? Bah non.
Qu'est-ce que t'as envie de dire dans le micro?
Mais...
Comment
ça fait là? On veut enregistrer nous.
Ben c'est, ça enregistre là.
Salut les amis.
Mais non, pas oh, oh. Dans ça. Pas dans
voilà.
Ça.
Voilà, et maintenant on appuie là. Vas-y, là.